Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça fait un an que je cours tous les jours. Quel bilan je fais de cette année de course quotidienne? Eh bien, vous m'avez posé plein de questions et je vais vous répondre. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore des recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Bien entendu, le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je suis tout seul pour un nouvel épisode qui est, enfin tout seul non, parce que je suis avec vous, avec toutes les questions que vous m'avez posées. Honnêtement, si je regarde, alors ne partez pas hein, quand je vais vous dire ça, quand je vais vous donner le chiffre brut, vous m'avez posé 32 questions. Entre le Hamster Running Club, entre Instagram, entre les messages que j'ai reçus, j'ai 32 questions sur ma pratique du running et de cette que j'ai faite dans cette année. Hein, cette année. Là, j'enregistre pour tout vous dire, on est le mardi 26, et là, 26 juillet 2022, et le 26 juillet 2021, je commençais à courir tous les jours, j'avais numéroté le jour 1, donc hier, j'ai couru 365, c'était le jour 365, donc une année complète de course, et aujourd'hui, je suis allé courir ce matin pour entamer ma deuxième année, parce que, ouais, je réponds déjà à une question qu'on m'a posée de savoir ce que j'allais faire, mais en fait, je continue. Le rappel que je dois vous faire, quand même, dans l'idée hein, de pourquoi je me suis lancé là-dedans, l'an dernier était une année qui était quand même un peu compliquée, j'ai commencé à avoir mal au genou au début du mois de janvier, après j'avais prévu de faire une opération qui était une vasectomie, donc la vasectomie a lieu en février, et puis 15 jours après, février-mars dans ces zones-là, puis 15 jours après j'étais opéré du genou parce que le ménisque était abîmé, donc le ménisque a été un petit peu raboté, et puis derrière il y a eu la période bien sûr de cicatrisation, de rééducation, etc. Mais je me suis retrouvé à peu près au mois d'avril, mai, juin, dans ces zones-là, où finalement j'avais plus beaucoup une activité qui était plus très très importante, où j'ai pu reprendre, etc. Mais j'avais pas vraiment d'objectif, je sais pas trop ce que je voulais faire, comme quoi manger, courir, etc. Et puis surtout, en fait, je me suis mis à avoir des douleurs assez importantes sur les cuisses, sur les jambes, le dos, des choses qui ressemblent à des sciatiques, des trucs un petit peu comme ça. Et donc j'ai commencé à consulter, on a commencé à faire un petit peu quelques examens, carence en vitamine D, et puis j'avais raconté ça l'an dernier, donc je vous mettrai les liens, bien entendu, vers les épisodes qui expliquent tout ça, mais le mal dont je souffrais réellement, en fait, c'était le retour dans la sédentarité. C'est-à-dire que j'avais pris pas loin d'une dizaine de kilos finalement par cette pause forcée, hein, qui était vraiment vraiment une pause forcée. C'est pour ça que depuis, je dis que la blessure est le pire des choses. Et je peux vous dire que j'ai déjà enregistré des épisodes des trois semaines qui viennent dans lesquels on parle en fait à quel point la blessure fait partie en fait du gros problème et qu'il faut surtout l'éviter. Hein, que on a l'impression que parce que les statistiques disent qu'il y a 65% des coureurs qui se blessent, mais en fait c'est pas une fatalité et surtout faut arriver à l'éviter. Et je vous garantis que vraiment c'est important d'arriver à l'éviter parce que pour l'avoir vécu, pour voir la perte que ça fait au niveau de physique, au niveau de la VMA, au niveau des capacités, au niveau de la motivation, au niveau de la confiance aussi, de se dire est-ce que je vais être capable de le faire, etc. C'est vraiment, vraiment le truc à éviter. Vraiment le truc à éviter. Et donc l'an dernier, je me suis retrouvé là, je me rappelle, j'étais allé voir Thomas Laure Blanchet l'an dernier et je lui ai parlé de mes examens, on a fait les radios, etc. Pincement lombaire, ces trucs-là, tout ça et tout. Et puis en discutant quand même, par les questionnements que je m'étais posé, j'étais arrivé à la conclusion qu'en fait, ma vraie véritable maladie, j'ai fait un épisode l'an dernier sur le sujet, c'était la sédentarité. Le problème, en fait, c'était, j'étais retombé dans la sédentarité. Le fait de ne pas pouvoir courir comme je voulais, bah, j'avais repris certaines habitudes qui étaient de dire, je travaillais plus sur ma chaise, je marchais un petit peu, après je m'étais mis à courir un petit peu, etc. Mais j'étais pas très assidu, j'avais pas d'objectif. Il fallait que je fasse attention à ma reprise. Je voulais pas casser un petit peu la machine, hein, qui était en train de se remettre un petit peu en route. Et donc je voyais pas assez le soleil, je voyais pas assez le jour, et finalement tout ça, tous les signes de douleur que je pouvais avoir, c'était le symbole en fait qu'il fallait que je remette de l'activité. Et donc j'avais décidé de dire que j'allais courir tous les jours comme étant pour moi le moyen de m'obliger un petit peu à courir, à avoir de l'activité tous les jours, c'est-à-dire à sortir de la maison, avoir un objectif qui soit au moins de dire, aujourd'hui, je fais ma séance et elle fera peut-être que 10 minutes, c'est mon minimum, et 1 miles, 1,6 km, c'est mon minimum. C'est ce que je me fixe, mais tous les jours, je dois la faire. C'est l'objectif de ma journée, j'ai envie de dire, sur le plan sportif, plutôt que de calculer quel jour je peux m'entraîner, quel jour je peux pas m'entraîner, etc. Sur l'organisation, et là aussi, je commence un petit peu à anticiper des questions que j'ai pu avoir, c'était de dire, je vais commencer à courir comme ça tous les jours. Et en fait, 366 jours plus tard, je suis toujours là-dedans. Et bon, maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions, maintenant que ce préambule est fait, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment tout ça s'est passé. Alors, j'ai pris les questions, je les ai classées, on va dire, en 6 grandes catégories, entre les statistiques, et puis un peu vos craintes aussi, la blessure, l'usure mentale, la monotonie, et puis j'ai eu beaucoup de questions sur l'organisation, et puis sur mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bon, j'ai déjà répondu, en fait, j'ai l'impression que je pourrais couper l'épisode maintenant. Bon, on va essayer quand même de le faire, je vais essayer de le faire assez succinct sur une bonne partie, parce que si vous voulez avoir plus de réponses, etc., vous pouvez aussi venir dans le Hamster Running Club, dans lequel je réponds tous les vendredis, je fais des questions-réponses, donc vous pouvez venir aussi poser des questions complémentaires. Cette partie-là, elle est totalement gratuite, donc vous venez, vous posez des questions, et en fait, il y a déjà des questions auxquelles j'ai répondu, auxquelles je vais répondre encore, mais quand vous venez, si vous inscrivez là maintenant, je mets le lien dans les notes de l'épisode, en fait, vous avez accès en fait à toutes les questions-réponses que j'ai pu faire. Il y en a peut-être déjà 10, peut-être 12, 15, etc. À chaque fois, ça fait une bonne heure, vous voyez, en plus. Donc, ça vous fait du contenu en plus, hein, si je vous manque entre le mercredi, le samedi, dans ces créneaux-là, ou si vous voulez des trucs un petit peu s'écouter, vous avez le Hamster Running Club dans lequel il y a des trucs complémentaires. Donc, je vais essayer de faire quand même bref pour pas repartir sur un épisode qui fasse 3 heures ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de le découper en plusieurs morceaux, comme feraient certains en disant, je vais découper ça en 2 ou 3 morceaux. Non, on va faire une grosse FAQ. Vraiment, là, vous saurez tout sur le sujet. Vous pouvez prendre vos baskets pour faire une sortie longue, mais peut-être pas trop longue non plus quand même. Et c'est parti. Alors, première grande rubrique. Chiffres et progression. Maria Laura m'a demandé combien de kilomètres sur l'année. Xavito m'a demandé donner toutes les stats, etc. Bon, je vais vous donner les chiffres. Hier, j'ai fait des tableaux. J'ai fait des jolis tableaux. J'ai fait des petits graphiques, etc. Et je vous donne le chiffre en kilomètres. C'est 2137 kilomètres. 2137 kilomètres sur du 26 juillet 2021 au 25 de cette année. Donc 365 jours. Ça fait 2137 kilomètres. Et pour répondre à la question, est-ce que j'ai progressé, etc. Et je n'ai jamais fait une année de course aussi importante dans ma vie. Voilà. C'est le mot dit. Je n'ai jamais fait sur 2020 et 2021, je crois, 2021, je m'étais donné l'objectif de faire 2021 kilomètres. Je l'avais pas atteint, et donc là je suis à 2137, donc finalement je suis au-dessus de cet objectif de courir au moins 20 km par semaine, etc. Donc je suis au-dessus, donc c'est plutôt cool, hein. Le bilan global là-dedans, c'est que j'ai progressé en distance, capacité, et puis j'ai aussi progressé en dénivelé. Alors je vous le dis, j'ai fait 49 515 mètres de dénivelé. Alors si ça vous dit pas trop comme ça, en fait, faut juste vous rendre compte que ça fait grosso modo 10 fois le Mont Blanc ou 5,5 fois l'Everest. Voilà, à peu près, grosso modo, vous voyez des grosses montagnes pleines de neige, c'est comme si j'étais monté 10 fois en haut du Mont Blanc, en partant du niveau de la mer, hein, pas en partant de la vallée, et l'Everest, ça fait 5,6 fois. Voilà, grosso modo, réparti sur 365 jours, histoire de dire quand même que ça paraît pas comme ça de dire, ouais, mais je vais faire 10 minutes, un mile comme ça, tous les jours, etc. Ça paraît pas, mais à la fin, quand on cumule, j'ai fait plus que ça, il y a des jours, j'ai fait jusqu'à 35 km, mais si on cumule, ne serait-ce que ça, 365 jours fois 1 km, ça fait déjà 365 km dans l'année. Si vous en faites 2, ça fait déjà 700 et quelques. Si vous arrivez à en faire 5 en moyenne par jour comme ça, bah vous rendez compte que les distances commencent à augmenter beaucoup, hein, vraiment beaucoup, et qu'on arriverait à 1800 km, un truc dans le genre là. Vous voyez à peu près comment ça fait. Bon, la moyenne par jour, c'est 5,8 km, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je veux dire ? En moyenne, j'ai couru 41 minutes par jour. C'est ma moyenne sur... L'année, c'est 41 minutes par jour, à peu près. Mais il y a des jours, j'ai fait 10, 12 minutes. Il y a des jours, j'ai fait 12 minutes. J'avais prévu de faire mon miles, etc. J'ai fait 12 minutes, pas plus. Et puis, il y a des jours, je fais 16 minutes, 18, etc. Et puis, il y a des jours, j'ai fait plus. J'ai fait beaucoup plus certains jours. Et voilà, un petit peu la logique. Et au final, j'ai couru une semaine et trois jours, et 12 heures, enfin, trois jours et demi, quoi. On va dire une semaine et trois jours et demi de mon année des 365 derniers jours, en fait, a été passée à courir. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près le chiffre global que je peux vous donner. Et est-ce que j'ai progressé? Oui, j'ai progressé. Non, Xavito, pour répondre à ta question, j'ai progressé sur tous les domaines, sur sauf sur la vitesse. Mais et encore que j'ai pas trop mesuré, il faudrait que je fasse des tests, etc. Je sortais quand même d'une donc 2021 était le début d'année 2021 et pas été terrible. 2020, il y avait les confinements, j'avais arrêté de courir, j'ai perdu quelques objectifs, etc. Je sais plus trop comment. Il y avait des petits moments où je sais pas trop, etc. J'ai perdu beaucoup de VMA en fait sur cette période-là. Et en fait, quand j'ai refait un test de VMA, j'ai perdu 3 points de VMA. Alors déjà, si vous avez écouté les tout premiers épisodes du podcast, j'ai joué un coureur lent. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'étais pas un coureur si lent que ça, parce que par rapport à la moyenne du marathon de Paris, c'est 4h40, hein, la moyenne de si on prend tous les coureurs. Et je crois que le prochain invité du podcast dit que sur les grands marathons, la moyenne, c'est 4h15 à peu près. Et moi, je le fais en 3h46. J'avais visé 3h30 et je le fais en 3h46. Donc finalement, j'étais pas un coureur lent. Enfin, pas aussi lent que je pensais. J'étais pas aussi rapide que j'aurais espéré, mais pas aussi lent. Mais par contre, là maintenant, je suis un coureur qui est plus lent parce que bah la perte de l'activité, etc., le fait de ne pas s'entraîner pendant des mois comme ça, bah fait tout simplement que j'ai perdu, vraiment perdu de la vitesse et que je le sens, hein, et que en plus j'ai pas fait vraiment d'exercice suffisant pour retrouver ma vitesse. Donc j'ai progressé sur la distance, j'ai progressé sur le temps, j'ai progressé sur la gestion de mon corps, j'ai progressé sur ma foulée, j'ai progressé sur beaucoup d'éléments. Mais il y a un point sur lequel j'ai pas progressé, c'est notamment la vitesse, et c'est logique aussi parce que cette année, sur le mois de janvier, j'ai fait le 496 challenge, qui, je vous rappelle, le principe c'était simple, c'était le 1er janvier je cours 1 km, le 2 janvier 2, le 3 à 3, et puis le 31. Donc ça fait 496 km sur l'ensemble du mois. Moi, j'en ai fait 509 avec du dénivelé, etc. Bon, j'ai fait un épisode bilan, donc vous retrouverez le bilan, ce qui est en mode FAQ aussi comme ça. Mais comme c'était plutôt de l'endurance et le but du jeu, c'est de faire la distance et pas le faire dans un certain temps, ben, ça m'a plutôt amené sur des, je redirais, sur de l'entraînement d'ultra. Vraiment, hein, j'ai une sorte de devenu un peu un ultra runner en réparti sur plusieurs jours, plutôt que un coureur de vitesse. C'est-à-dire que là, même si on demande, comment il s'appelle, Coros, qui me fait des prédictions, vous savez, ma montre Coros, elle me fait des prédictions de alors combien je pourrais courir le 5 km, etc. Bon, bah, je suis loin de mon record, en fait. Hein. Mon record, il est autour de... Enfin, je suis pas passé en dessous des 20 minutes dans ma carrière. J'étais pas passé très loin, ça s'est pas joué à grand-chose. Là, maintenant, quand il m'annonce que il m'annonce 5 km en 23 minutes 21, ça veut dire que sur 5 km, j'aurais perdu 3 minutes. 3 minutes. Alors, après, sur marathon, il m'annonce quand même un temps, une prédiction à 3,44. Alors, je me dis que j'ai perdu de la vitesse, mais que ma vitesse tracteur, peut-être, grosso modo, je pense qu'il est un petit peu, il est un petit peu sympathique avec moi, Coros, sur la prédiction. Et mais en fait, sur le 5 km, vraiment, sur les temps, je vois que, de toute façon, je suis loin des temps. Mais par contre, ça peut être un objectif, en fait. Ça peut être vraiment un objectif. Me poser des questions sur le futur, ça pourrait être un objectif, mais c'est pas ce qui me tente le plus pour le moment. Mais en tout cas, ça pourrait être un objectif d'essayer de retrouver de la vitesse, parce que travailler la vitesse et l'endurance, les deux sont liés en fait. En travaillant la vitesse, on améliore son endurance, en travaillant son endurance, on améliore sa vitesse, mais il faut faire des deux exercices en fait. Si on court lentement, faut pas s'étonner de courir lentement. Mais voilà, c'est comme ça, donc c'est la logique, hein, un petit peu de tout ça. De comment je fonctionne. Et en fait, si vous regardez mes statistiques, vous verrez que j'ai souvent des sorties où je prends mon temps, je fais quelques photos, etc., où je suis largement en dessous de 10 km/h, où je cours plutôt, J'ai des sorties, je vais faire à 8 km/h, à 9 km/h, je prends mon temps, je fais un peu de méditation, un petit peu de yoga, etc. C'est une approche de la course qui est totalement différente, et ça, c'est vraiment une évolution qui est totalement, totalement différente. C'est ce que j'appelle le positive running aussi, et sur l'année, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs, on ne m'a pas trop posé de questions sur le sujet, mais comme ça, je le glisse au passage, en fait, ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Donc, ça permet de, voilà, de répondre. Xavito, puis Brice aussi m'a posé la question, est-ce que mon volume de course a augmenté durant ces 365 jours? Oui, vraiment oui. Et puis une question subsidiaire qui m'était posée, c'est aussi est-ce que j'ai réussi à perdre du poids en courant 10 minutes par jour? Alors, oui, j'ai perdu du poids. Alors, oui, déjà le chiffre, oui, j'ai perdu du poids. J'ai perdu, et encore, ce matin, j'ai oublié de me peser au moment où d'habitude je me pèse tout le temps, c'est-à-dire, vous savez, pipi, etc. Puis il y a toujours un créneau, là, horaire à peu près, whoop, je monte pour sur la balance. Et là, en fait, j'ai pris le petit déjeuner. Et après, j'ai dit, oh, j'ai oublié de me peser pour faire l'épisode bilan, etc. Je dis, bon, c'est dommage. Mais bon, quand même, hein, j'ai regardé un petit peu mes statistiques. Je suis quand même monté sur la balance en me disant, c'est peut-être pas mon poids exact que je fais, etc. Mais bon, disons que ce matin, après avoir mangé mes tartines de beurre cacahuète, j'étais à 81,6 kilos. Voilà. Et que si je prends en juillet 2021, j'étais à 88,4 kilos le 5 juillet, donc c'est-à-dire pas longtemps avant de démarrer cette expérience. Et en fait, j'avais un IMC de 26 et une matière grasse de 23,6, voilà. Et là maintenant, j'ai une matière grasse de 19% et un IMC de 24. Donc j'ai 81,6 kilos, donc ça veut dire que j'ai perdu du poids. Oui, j'ai perdu du poids. Je me suis allégé en matière grasse. Je regrette que ma balance Withings ne fasse pas la mesure de la masse musculaire précisément. C'est un regret. D'ailleurs, j'aimerais bien que j'ai contacté Withings pour voir si on pouvait pas faire un partenariat pour suivre un petit peu l'évolution et tout. Bon, ça, j'ai pas eu de réponse de leur part. Ce qui est dommage quand même. Je le dis, si vous connaissez quelqu'un chez Withings, dites-leur que j'ai envoyé des mails qui m'ont jamais répondu. Mais sur l'instant, en fait, quand je dis que je suis un bon hamster enrichi en matière grasse, bon bah c'est, en fait ça commence à être un peu moins vrai. Alors c'est sûr que je suis pas dans les taux de masse grasse qui permettraient de sécher, de montrer les abdos, etc. Parce que sur le ventre, moi j'aime toujours pas mon ventre, et ça c'est un truc, quel est l'avenir, je vous le dirai plus tard, mais je vous garantis que si je vous parle de mon ventre, c'est pas pour rien non plus. Mais en tout cas, j'ai perdu du poids, qui n'est pas que de la course en fait. Et puis même mon poids, j'ai vraiment commencé à le perdre sur septembre-octobre. Donc effectivement, là où j'ai commencé à courir plus, etc. Je me suis allégé un peu en décembre, je me suis allégé en janvier, pas tant que ça, parce que finalement, quand on regarde la fin du mois de janvier, j'étais quand même plus lourd que ce que je suis maintenant, malgré le 496 challenge. Et puis c'est ensuite, après il y a une stabilisation. Alors il y a eu un tout petit moment, un tout petit point du yo-yo, mais qui est pas énorme en fait. C'est-à-dire que j'ai 1 ou 2 kilos de variation, vous voyez, entre les moments, mais ça qui vient aussi de la balance. Il suffit d'avoir bu 2 verres d'eau à un moment, ou moins ou plus. Et, enfin voilà, ça joue à pas grand-chose. Hein. Un peu déshydratation un jour, un peu surhydratation. D'hydratation plus normale. Voilà, il y a des rétention d'eau, il peut y avoir plein de trucs. 1 ou 2 kilos de variation par rapport à mon poids global. Hein, quand ça tourne autour de 80-81, moi je considère que par rapport à mes 107 kilos que j'ai fait à une époque, je suis un poids léger, hein, qui peut-être par rapport statistiquement, je le suis peut-être pas tant que ça, mais en tout cas moi je considère que je suis quand même un poids léger, et ça vraiment je suis assez fier de cette évolution là, mais qui n'est pas dû qu'à la course aussi, qui est dû en fait à un équilibre global de vie, et c'est ce que j'appelle ça, vous savez, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Le mouvement en fait partie, mais courir beaucoup et manger n'importe comment, ce n'est pas efficace, ni pour le poids, ni pour l'énergie, ni pour la bonne santé, etc. Et donc, quand même, j'ai un équilibre alimentaire qui, même si des fois il déconne, même si j'ai une tendance à taper un peu dans les purées cacahuètes, etc., quand je suis un peu frustré, que je mange un peu trop de chocolat et un peu trop de glace par moment, globalement quand même j'ai ma dose d'activité, et ça me fait rire parce que le matin quand je rentre de courir, vous savez, Coros il m'a mis un objectif comme quoi il faut que je dépense 660 calories en courant de sport dans la journée. Alors je sais pas d'où il m'a sorti ça, et je dis 660, j'aurais dit, il aurait pu arrondir à 666 d'ailleurs, ça aurait été plus drôle. Mais en fait la plupart du temps quand je rentre, je vais courir le matin. C'est une question que j'ai eue, mais souvent je vais courir le matin en ce moment. Quand je rentre, je regarde ma montre, je dis, ah bah tiens, j'ai déjà mon quota de calories dépensées d'après ce que Coros a calculé par rapport à mon métabolisme, par rapport au métabolisme global, et ce que je devrais dépenser en activité physique dans la journée. Donc, je me dis, ça équilibre, ça aide à équilibrer, et c'est pas plus mal, mais il faut pas compter que sur la course à pied. Et même à la limite, j'ai envie de dire que si on mange mal, si on mange pas assez de protéines, pas assez de légumes, pas assez de fibres, pas assez de même de sucre, etc., on a plutôt une tendance à ce que le corps va faire des réserves. Et donc on a plutôt tendance à grossir. Et là, je vous renverrai un peu sur les épisodes, notamment avec le docteur Denis Boucher, qui doit correspondre à l'épisode 100 du podcast, sur lequel on a parlé de ça. C'est-à-dire que à force, si vous mangez mal et que vous faites beaucoup d'activités physiques et sportives, vous pouvez vous retrouver à grossir, tout simplement parce que le corps, dès que vous allez faire un petit écart ou quoi que ce soit, il va dire oh, « je suis affamé, vite, j'ai à manger, il stocke ». Au cas où, hein, vraiment au cas où. Et donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver un équilibre, qu'il comprenne que je vais bouger tous les jours, mais que je vais lui donner à manger convenablement et qu'il pourra récupérer derrière. Et ça, c'est vraiment l'équilibre. Et ça, je suis très, très fier. Vraiment, vous voyez, parce que les 81,6 kilos du jour, c'est en mangeant des glaces, des fois deux glaces par jour, en mangeant plus qu'un carré de chocolat, en mangeant des frites une fois dans la semaine, en mangeant une pizza une autre fois dans la semaine, en mangeant des fruits, des légumes, etc., en ayant un équilibre. Mais c'est pas de la privation. Enfin, c'est pas de la privation. Je suis pas au régime. Je surveille pas mon poids. Vraiment, j'étais pas monté sur la balance depuis le 23 juin. Donc, autant vous dire que je monte sur la balance en moyenne. Au mois de mai, je suis monté une fois. En avril, je suis monté une fois dessus. En mars, deux fois. Et au mois de juillet, vous voyez, ce matin, je me suis dit, bon, faut peut-être que je regarde un peu pour faire les stats parce que j'ai vu cette question passer. Je dis, bah, pour répondre à la question, faut que je vérifie, quoi. Voilà. Donc, j'ai vérifié. Voilà. Donc, vous avez le chiffre. J'ai vérifié. Et, c'est clôture cette partie, cette première partie sur ces chiffres, cette progression, et la partie purement chiffrée. Maintenant, j'ai une deuxième question, deuxième grand chapitre, c'est sur la gestion physique et de la blessure. Alors d'ailleurs, vous êtes beaucoup inquiété pour moi, je me rends compte sur ce plan-là, parce que j'ai des questions comme Maria Laura qui me dit « Comment as-tu géré les petites ou grandes douleurs résiduelles, les douleurs physiques et ou mentales ?» Et puis j'ai Tonio, j'ai 77, « Jamais de blessure à courir 365 jours par jour, 365 jours. » Lucille, pas de douleur, j'admire, pas de alors merci Lucille, ça me fait plaisir. Pas de douleur, point d'interrogation, j'ai bis photo, pas trop dur, pas de douleur, dame de la colline, t'es blessée cette année? Ben non. Eh ben non, mais c'est ça le truc, l'expérience aussi, elle est là-dedans, c'est-à-dire que on est tellement conditionné par le fait qu'on dit oui, tu peux pas courir tous les jours, etc. L'autre jour, je suis allé au marché, j'ai acheté mon pain, et je vous donne les coulisses, comme ça vous saurez, c'est la belle-sœur de mon vendeur de pain habituel qui était là, parce que lui était en arrêt maladie, etc. Et donc il était venu avec elle l'accompagner pour lui expliquer qui sont les clients, comment ça marche, où il faut s'installer et tout. Et puis moi quand j'arrive et tout, il me présente à elle et elle me dit bah écoute Bertrand, ça fait à l'époque c'était 340 jours, j'étais un truc comme ça. Et elle me regarde et me dit mais il faut faire des pauses des fois monsieur. Je dis pourquoi? Elle me dit pour se reposer, le corps il a besoin d'arrêter, etc. et tout. Et je la regarde, je lui dis mais en fait ça fait 340 jours et je me sens en meilleure santé qu'au début. Et donc ça veut dire que mon corps, j'ai trouvé un équilibre en fait. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés par ces trucs-là de dire on peut pas faire du sport tous les jours, on peut pas bouger tous les jours, etc. C'est pas possible, il faut se reposer, le corps doit se reposer, etc. Oui, le corps doit se reposer, mais en fait, faut pas non plus trop déconner hein, dans le truc. Il faut se rendre compte quand même que notre corps, globalement, on l'a amputé de beaucoup de ses compétences, de ses capacités. Là, franchement, au mois d'août, il y a un ou deux épisodes avec des invités, ça nous bougera un petit peu sur un petit peu la vision de ça, etc. Je peux vous le dire, parce qu'on en a parlé un petit peu de ce qu'on est capable, pas capable, etc. Et notre corps, en fait, on a beaucoup perdu de capacité par rapport à ce que nos ancêtres étaient capables de faire. Mais ça veut dire que ce n'est pas une limite physiologique, en fait. C'est une limite... que musculairement, on fait plus travailler nos muscles pareil, on fait plus travailler notre squelette pareil, et donc oui, on devient, en fait, on n'est pas dans l'évolution, j'ai envie de dire, hein, on est dans la, je sais pas comment on pourrait dire, dans la désévolution, je sais pas si ça pourrait se dire, mais c'est-à-dire que si l'évolution, c'était de dire on va progresser, et vous savez, j'ai fait un épisode sur le biohacking, sur comment est-ce qu'on devient des humains, on entend ces humains augmentés, ces humains plus costauds, plus forts, etc., et on nous met plein de trucs, des petites gélules, des boissons magiques, des capteurs de je sais pas quoi, etc. On nous met plein de mélanges de poudre, de plein de trucs comme ça. Alors qu'en fait, Et le truc, c'est que nos ancêtres, qui n'avaient pas tout ça, étaient plus forts. Plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils bougeaient plus. Parce que l'autre jour, j'ai lu une stat, certains, on parle des sapiens et compagnie, seraient peut-être aussi forts que nos athlètes qu'on voit au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, etc. Allez savoir si, par exemple, certains de nos ancêtres ne seraient pas plus forts que Kevin Mayer, qui vient de médaille d'or au championnat du monde en décathlon. Allez savoir si finalement, si on mettait un sapiens de quelques années, de quelques siècles, etc., de millénaires même et tout, et si on le mettait par rapport à nos athlètes de maintenant, alors peut-être qu'il courrait pas aussi vite, parce qu'il a pas très la vitesse, etc., mais peut-être qu'il serait capable de courir plus longtemps, de porter des choses plus lourdes, plus longtemps, etc. Il y a des traces qui ont montré que, par exemple, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc le principe des chasseurs-cueilleurs, quand même, c'était que pour cueillir des choses, il fallait marcher, les déplacer, etc. Mais pour chasser aussi, ils chassaient par une technique que les... Si vous avez lu Born to Run, si vous avez lu les livres un petit peu, surtout là-dessus, et certains invités en ont parlé, et d'autres invités qui vont encore en parler, etc. Bon... C'est quand même, on était quand même dans une approche où l'homme a une caractéristique qui est incroyable, c'est sa capacité en fait à faire un effort prolongé et en alternant la course et la marche. Ça, j'en avais parlé sur l'épisode de l'alternance, la course et la marche. Et sur l'idée, en fait, c'est que on a plein d'animaux qui courent beaucoup plus vite que nous. Il y a beaucoup d'animaux qui sont plus forts que nous, plus gros, plus plein de choses que nous. Mais en fait, nous, on est capable de transpirer, on est capable d'alterner. Et la transpiration nous permet de réguler la température du corps. Et ce qui fait qu'on est capable de courir plus longtemps, c'est la régulation de la température du corps. Et là, on a eu des invités là-dessus, quand on en parlait, on a parlé dans Sport Nutrition, etc. C'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on transpire, c'est pour ça aussi qu'il faut boire, c'est pour ça qu'il faut avoir des vêtements adaptés quand il fait chaud. Enfin, il y a plein de raisons, etc. Mais c'est sûr que si on fait la course avec une antilope ou un jaguar, on se fait bananer. Sauf que ces animaux là en fait, et c'est pareil pour un chat, tous les catégories de chats, c'est qu'en fait vous les faites courir pendant quelques centaines de mètres, ils vont pouvoir courir très très vite, mais en fait ils vont être très rapidement surchauffés et ils sont obligés de s'arrêter. Et les hommes, ils ont compris que ils pouvaient les faire courir. Et hop, et au bout d'un moment, en courant, en marchant, en ayant cette alternance comme ça, les sapiens, ses compagnons, ont été capables finalement de petit à petit arriver à trouver des techniques de chasse, et que les tribus encore, les peuples, vous savez, qui dans certaines forêts en Afrique aussi et tout, on a encore des peuples de chasseurs-cueilleurs qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont encore peu présents. Alors on pourrait dire... Les fameux Tarahumaras, les Rarámuri, en font un peu partie encore de ces populations-là, mais même si malheureusement le marketing et l'appât de l'argent, etc., et les narcos autour d'eux ont beaucoup changé cette relation qu'ils peuvent avoir aussi, où ça devient compliqué aussi pour eux pour survivre avec les vies qu'ils avaient avant. Mais cette logique-là, en fait, était de dire... quand on est ces modes de vie-là, nos ancêtres étaient capables de courir, de marcher pendant peut-être 20 km par jour, d'avoir cette alternance. J'ai vu une stat aussi de porter des enfants sur 1,6 km, 2 km, alors que moi, ma fille, j'arrive pas à la porter pendant aussi longtemps que ça. Elle a 4 ans et demi, je me dis, si je devais porter ma fille pendant 2 km comme ça, dans quel état je serais si je la portais, comment je pourrais faire, etc. C'est pas si simple que ça quand on se pose ces questions-là. Et finalement, on a perdu. Tout ça pour dire qu'on a perdu, en fait, en capacité physique, etc. Mais c'est le fait de courir un petit peu tous les jours, de gérer physiquement mon corps, etc., finalement, revient sur un fonctionnement qui est de dire, si on n'est pas de voiture, comment on ferait? Comment je ferais s'il n'y avait pas de voiture? Bon, ma fille, je l'amène à l'école en marchant. Et des fois, je vais la chercher en courant. Voilà. Les courses, il y a peut-être des magasins plus proches, etc. Mais si je devais faire les courses sans voiture, je pourrais y aller en vélo, donc une activité physique. J'irais à pied. Je pourrais y aller en courant, à la limite, à l'aller, revenir en courant, etc. J'ai des voisins qui le font, qui n'ont pas de voiture, qui le font. Je devais aller travailler, il y a les transports en commun, certes. Si je travaillais en dehors de la maison, je veux dire, il y a marcher, courir, etc. Donc, cette activité-là globale, en fait, si on n'avait pas inventé tous nos moyens de locomotion, on serait dans cette activité-là, hein, tout simplement. On serait dans cette activité-là, mais bien sûr, on la ferait pas en mode toute barzingue, en fait. Et c'est un petit peu ça, le problème de la gestion physique et de la blessure, c'est que quand la question elle est posée, c'est que souvent, quand on regarde les entraînements qu'on fait en course, qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement ? On va faire soit des entraînements d'endurance mentale, cool. Et là, on se dit, bon, c'est cool, etc. Soit on va faire des entraînements de vitesse. Et donc là, on va taper musculairement, etc. Et ça fatigue parce qu'on fait de la vitesse. Et puis, on va faire de la sortie longue. Et la sortie longue, on dépasse un certain temps. Et là aussi, on engendre de la fatigue. Mais en fait, ces sorties-là, moi, elles existent encore. C'est ce qui se trouve entre ces sorties-là. Je ne fais pas, mis à part sur le mois de janvier, où j'ai finalement fait... à partir du 20 janvier, plus d'un semi-marathon, j'ai fait un semi-marathon le 21, puis un semi-marathon plus un le 22, etc., jusqu'à 31 km le 31. Mis à part cette période-là, si j'avais des séances qui étaient assez courtes, etc., le 1er janvier, faire un kilomètre, j'ai arrêté le, j'ai dit, oh punaise, t'es déjà à deux, là. Ralenti. Enfin, arrête. Donc, j'ai même arrêté la montre avant de rentrer à mon point de départ pour pas dépasser les deux, en fait, pour pas passer directement sur deux. Et puis, le deux aussi, c'était pareil. Puis, le trois, etc., c'était pareil. Mais je veux dire que, sur cette gestion physique, sur cette gestion de la douleur, sur cette gestion de la blessure potentielle, c'est une gestion du corps, de ce qu'on appelle, ce que la clinique Cohort appelle la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire de dire, comment je fais pour maintenir, en fait, de l'activité qui me fasse progresser, sans aller dans la surfatigue, dans un trop de fatigue. Et je l'ai vu, en fait, comme étant un moyen, alors pas forcément de moyen de locomotion, mais des fois, moyen de locomotion. Me dire, je vais aller chercher le pain à la boulangerie, mais pour aller chercher le pain à la boulangerie, au lieu de prendre la voiture, ce que je fais pas. Mais il y a une boulangerie, par exemple, ma fille, un jour, elle voulait des chouquettes. Au lieu d'aller les chouquettes, c'était au mois d'août l'an dernier, et la boulangerie à côté fait pas de chouquettes. Je dis, écoute, Camille, demain matin, je vais aller chercher des chouquettes. Je lui ai même pas dit, je dis, un jour, j'irai chercher des chouquettes. Et le lendemain, je suis parti, il pleuvait en plus ce jour-là, j'ai pris mon petit sac, je suis parti, j'étais dans 2-3 flaques d'eau, je suis arrivé devant la boulangerie, c'était 6h30, j'ai des chouquettes, j'ai mis ça dans mon petit sac, je suis rentré, et en fait, j'avais remplacé la voiture par un moyen de locomotion. Mais bien sûr, je suis pas allé à toute vitesse. Bien sûr, je fais pas de la VMA tous les jours, etc. Parce que si je faisais de la séance de VMA tous les jours, là, j'aurais un risque de blessure. Si je faisais que des séances dures physiquement, si je faisais que de la VMA tous les jours, que des séances d'accélération tous les jours, si je faisais que des sorties longues tous les jours, que ça, oui, forcément, que le risque de blessure serait beaucoup plus important. Et encore que, je l'ai vu sur le mois de janvier, sur quelques jours, ça passe. Et on voit que les volumes d'entraînement, etc., il y a certains des invités que j'ai eus qui courent 3 fois plus que moi, qui courent 2 000 km, 3 000 km, c'est 2 000 km, c'est leur minimum, 3 000, 4 000, 5 000 km, parce que, en fait, il y a une progressivité, parce qu'ils ont habitué leur corps petit à petit à le faire, etc. Donc, c'est un ensemble, tout ça. Et c'est vrai que la vision que l'on a, c'est de dire, ah oui, mais on m'a dit qu'on peut pas courir tous les jours. C'est pas possible de courir tous les jours. On m'a dit qu'il faut. Et en fait, moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que c'est possible de le faire? Et ce que j'ai vu, c'est que oui, c'est possible de le faire. Et qu'en plus, les douleurs que j'avais l'an dernier, juste avant de commencer, et j'ai mis des photos sur Instagram, il y a des jours, j'étais plié en deux. Et petit à petit, en fait, elles sont parties. Et plus je cours, et plus elles partent. Alors là, le truc, j'ai fait, j'ai un petit tassement lombaire, j'ai un petit peu d'arthrose, mais ça c'est normal, l'arthrose, tout le monde en a un petit peu, et des fois ça fait mal, des fois ça fait pas mal. Là, j'ai à nouveau mal, il y a des périodes où j'ai mal, des périodes où j'ai pas mal, mais en fait, je me rends compte que les périodes où j'ai mal, c'est les périodes où je suis trop longtemps assis sur une chaise, où je suis trop longtemps assis dans le canapé, où il y a une petite douleur émotionnelle aussi, des émotions un peu négatives, des inquiétudes sur les rentrées d'argent, des inquiétudes émotionnelles, des gestions des relations, par exemple avec ma fille, quand des fois c'est un peu compliqué à la maison, parce que elle a des petits soucis, des fois de santé, des choses comme ça, où c'est un peu compliqué et tout. Là, je vois que je me tends, je viens tout tendu. Et tout tendu, c'est quoi? C'est la tension musculaire. La tension musculaire, ça provoque quoi? Ça provoque des pressions, en fait, sur les nerfs, etc. Donc, ça s'enflamme et ça prend feu, en fait, en moi. Voilà. Et donc, ça fait mal de partout. Et donc, c'est pour ça que cette année, quand même, pour vous donner un peu vous savez, j'ai parlé de Sam tout à l'heure, mais l'évolution de Sam, c'est aussi de rajouter les émotions. C'est un peu... J'ai pris l'image l'autre jour pour ceux qui financent le podcast sur Patreon, j'ai pris un peu l'image, mais dans le Stars Running Club, j'ai dit ça aussi. C'est un peu, vous savez, à la Coupe du Monde, on avait pris Aimé Jacquet quand il dit à Robert Pires, il dit « muscle ton jeu, Robert ». Et moi, c'est comme s'il me dit « regardez, il me dit « muscle ton mental, Bertrand ». Aimé Jacquet, il me dirait ça, en fait. Il me dit « c'est dans la tête, ton problème ». Et je le sais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis certifié en préparation mentale. Parce que dans l'année, je me suis certifié en préparation mentale aussi, d'ailleurs. Et c'est ça, le truc, en fait. C'est que cette histoire-là, en fait, c'est que mentalement, je m'étais mis des barrières qui me disaient « je pourrais pas le faire ». Et ce qui m'a prouvé cette année, en fait, c'est que d'une part, je peux le faire sur le plan de l'organisation, mais je peux le faire aussi sur le plan physique. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et qu'en plus, quand je le fais, eh ben, je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mes émotions, je suis mieux dans mon corps. Et que, il y a des, franchement, le mois de janvier, j'ai fait 500 bornes. Je n'avais plus aucune douleur, ni aux jambes, ni au dos, ni rien, etc. J'ai ralenti le mois de février. J'ai des douleurs qui ont commencé à revenir. J'ai réaccéléré à partir du mois d'avril, mai, etc. C'est reparti. Et j'ai cette espèce de truc. Alors, bien sûr, on cherche avec un médecin. Là, tout à l'heure, avant d'enregistrer, j'ai pris rendez-vous. J'ai un scanner, j'ai une radio, des lombaires, etc. J'ai la télémétrie parce que mon médecin, la remplaçante du médecin pense que j'ai une jambe plus courte que l'autre, ce qui expliquerait que je sois tordu. Alors, elle a dit un gros mot hier. Elle m'a dit, il faut mettre des semelles, peut-être. C'est passé, vous voyez. C'est la zone entre les deux oreilles là. Il y a quand même un canal avec le mot semelle qui a été. Je sais pas ce qu'elle a dit en fait. Je lui ai rien dit, mais je lui ai pas dit que je courais pieds nus, je lui ai pas dit que je courais en sandales, je lui ai pas dit que moi j'étais bien dans le minimalisme, etc. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé en fait. J'ai pas pensé assez fort pour qu'elle l'entende, mais en tout cas, pour clôturer sur cette partie gestion physique blessure, bien entendu, l'idée c'est de dire il faut gérer son énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est comment on mange, comment on dort, comment on bouge, comment on génère d'énergie, comment on récupère. Et c'est sûr qu'il y a des moments, bah j'ai dit, bah faut que je mange plus de protéines parce que mon corps a besoin de plus d'énergie. Pendant le 496 challenge, j'ai augmenté ma dose de protéines avec des protéines végétales le matin en plus. Je faisais attention à manger plus de viande blanche, etc. J'ai fait attention à ça. J'ai fait attention. J'ai même repris du fromage blanc et des trucs comme ça pour faire attention. L'eau, les eaux minérales. Faire attention aussi à des choses comme j'ai pris un peu d'eau de Quinton à un moment donné. Faire attention aux jus, les jus verts. Manger cru. Enfin, tout un tas de choses en fait qui sont dans une gestion globale en fait du corps. Et je pense que c'est ça en fait qui est vraiment important, c'est-à-dire que ce fait d'être coureur tous les jours, ça m'amène à une autre hygiène de vie en fait, et c'est une hygiène de vie, vous voyez, qui me rappelle aussi un peu la préparation marathon. Donc je vous rappelle, j'ai fait 3 préparations marathon, j'ai fait une qui s'est terminée par une blessure que j'ai beaucoup appris. C'était le début du kilomètre 42, puis j'ai fait celle qui m'a permis de faire le marathon de Paris, et puis après j'en avais fait une autre qui devait me permettre de préparer le marathon d'Albi. Sauf que il y a eu le confinement et que voilà, donc il n'y a pas eu de marathon et ça s'est arrêté comme ça. Et depuis, je n'ai pas refait de préparation, et en fait je me rends compte vraiment globalement que quand on rentre dans une période de préparation, quelle que soit la course et que soit l'objectif, on rentre dans un mode un peu ce que j'appelle l'athlète, hein, à mode athlète. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aussi en coaching, c'est ce que je dis en accompagnement, ce que je dis dans mes formations et tout, c'est qu'en fait on rentre dans le mode athlète, et mode athlète c'est de dire on va faire plus attention à l'alimentation, au sommeil, etc. On le fait plus naturellement parce que on est fixé sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et quand on n'a pas d'objectif, comme moi c'était le cas, bah finalement cette hygiène de vie, bah je me disais bon allez, aujourd'hui j'ai peut-être pas besoin de faire attention à mon sommeil ou quoi que ce soit, parce que de toute façon demain je vais pas courir, je vais pas faire sport, je fais pas ça, etc. Et là en fait ça m'amène dans un équilibre global, en fait vraiment un équilibre global, et c'est cet équilibre global qui fait que globalement je me sens mieux, que je suis mieux physiquement, etc., et que j'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu de douleur, enfin j'ai pas, mis à part cette douleur là qui ressemble à de la sciatique, qui ressemble à des, la cruralgie, qui ressemble à je sais pas quoi en fait, on n'arrive pas trop à trouver vraiment exactement ce que c'est. Ou moi j'ai un peu quand même le sentiment que c'est quand même très émotionnel, qu'il y a beaucoup d'émotionnel, mais qu'il y a aussi, eh ben il y a des moments, il y a des espèces de petites crises qui se font, etc. Mais en dehors de ça, c'est pas lié propre à la course en fait, c'est même lié au fait que quand je cours pas, ben je le sens plus, ça me fait plus mal quoi. Et mon médecin finit par me dire un jour, m'a dit, de toute façon, vous avez trouvé un équilibre dans votre corps par le biais du sport, et ben il faut le garder, il faut le retrouver, il faut être là-dedans quoi. Alors que quelques années plus tôt, elle me disait, quand j'ai dit je veux courir un marathon, elle me fait attention, faut peut-être pas trop courir quand même. Mais elle a compris qu'en fait c'était ce qui m'éloignait du médicament, c'était tout simplement de bouger et d'avoir cette hygiène de vie globale. Voilà. Ce qui me permet de maintenant d'atteindre le, on va passer à un troisième grand chapitre de cet épisode de FAQ. On m'a beaucoup parlé de monotonie. Alors je vous donne des exemples de questions qui ont été posées. C'est Laurie. Comment as-tu géré la lassitude ressentie? J'imagine certains jours que, voilà, comment elle imagine qu'en fait j'avais de la lassitude. Running Bob, jamais envie de pas y aller. CLBV, comment avez-vous gardé la motivation? Jean-Yves, ça devient de plus en plus facile ou ça devient pénible par moment? Donc, cet sentiment de monotonie, attention, il est important à gérer. Et ça fait partie, je pense que tout coureur doit gérer ça, mais tout sportif doit gérer ça. Parce que c'est, j'ai fait deux épisodes sur la motivation finalement. L'ikigai, c'était une forme de motivation, et l'épisode sur la motivation, sur la démotivation, sur la perte de motivation. La monotonie fait partie en fait de perte de plaisir, et le plaisir fait partie en fait des ingrédients de la motivation. Ça, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Et vraiment, j'ai tâché à ne pas avoir de monotonie. Et de comment ne pas avoir de tomber dans la monotonie? Bah déjà, c'est de courir en écoutant autre chose que ce que je faisais avant en fait. C'est-à-dire que il y a des jours. En fait, j'ai pas de plan d'entraînement très précis ou quoi que ce soit. Y a des jours, en fait, je sors de la maison, je me dis, je pars à droite ou je pars à gauche. Et j'arrive au bout de la rue, je dis, je pars à droite ou je pars à gauche. Souvent, mon repère, par exemple, c'est de regarder où est le soleil. Et je dis, bah tiens, je vais aller voir le soleil aujourd'hui. Alors, quand je vois le soleil depuis la maison, en général, je pars à gauche. Puis à un moment, je vais arriver, puis là, je vais dire, ah, je sais que le soleil est au bout de la rue. Puis je sais que si je prends ce petit chemin, je vais les retrouver à tel endroit. Puis je sais que si je pars à telle heure, je vais voir le lever de soleil, etc. Ça fait partie en fait de mes objectifs du moment. Quelqu'un m'avait posé aussi une question, m'a dit, mais t'en as pas marre, toujours passer au même endroit? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais en fait, l'important, c'est pas de savoir si je passe au même endroit où j'arrive, où tu vois la photo, j'arrive au même endroit. Mais en fait, il y a encore la semaine dernière, j'ai encore découvert un nouveau chemin pour y aller. C'est-à-dire que ce point que vous voyez dans mes photos, que vous voyez souvent, il y a le Puy de Dôme derrière, etc., il y a les montagnes. Vous pouvez avoir l'impression que je vais toujours courir là-bas, mais ce que vous voyez pas, en fait, c'est le chemin entre la maison et ce point-là. Je peux avoir peut-être 10 ou 15 chemins différents pour y aller. Il y a un chemin, je le fais en... C'est franchement, plus court, en 1 km, je peux y être, à ce sommet-là. 1 km, j'y suis. Au plus long, ben, j'ai mis 30. Le jour de mon 496 challenge, j'ai... Le 31, j'étais parti et en fait je suis arrivé à ce point là où hier j'ai fêté, ou sur mon Instagram, si vous regardez les dernières photos, les photos ont été prises là-haut pour fêter mon arrivée. En fait, c'est le sommet de Bannes au-dessus de Cournon, dans la région de Clermont-Ferrand, et en fait symboliquement le 31 janvier, je me suis dit, mon point d'arrivée c'est là-haut, et en fait il est à 1 km de la maison à peine, mais sauf que pour y arriver là-haut, j'ai fait 30 bornes avant. Un peu plus, même pratiquement 31 bornes pour arriver à ce sommet-là. Mais en partant dans le centre de Clermont, qui a 13 bornes, et puis en allant voir tous les lieux où j'avais couru dans ma jeunesse, où j'avais fait du sport dans ma jeunesse, où j'avais rêvé de devenir sportif, les stades, etc., mon collège, mon école primaire et tout. Tout ça, j'ai surpassé par là. Et ce que je veux dire, c'est une réflexion qu'un jour m'avait... J'avais fait une réflexion sur le fait que, par exemple, pour casser la monotonie aussi, le dimanche matin, j'aime bien aller faire un coffee run. Il y a au marché, alors avant il était au marché de Cournon, maintenant il est moins, il est au marché à Aubière, pour ceux qui connaissent la région, etc., puis d'autres marchés. Il est Luc, qui a... En fait, il a une moto sidecar dans laquelle il met une machine à café, il met des moulins à café, il fait du café de qualité, etc. Il fait des cookies aussi. Et en fait, il s'installe dans différents marchés. Et donc, il y a un marché qui est à Aubière. L'aller-retour fait 18 km, à peu près, grosso modo. Et je m'étais dit, un jour ou une fois ou deux, je me suis dit, ouais, je vais aller voir. Je me dis, ça doit être possible, en fait. Le chemin n'était pas très agréable par moment, mais ça doit être possible de le faire. Et un jour, je l'ai fait, j'ai testé pour y aller voir. Et puis, j'ai fait une fois ou deux, j'ai fait deux, trois fois, j'ai fait plusieurs fois, etc. Dernière fois, j'étais même parti tellement tôt que je suis arrivé avant qu'ils soient installés. J'ai attendu qu'ils s'installent. On a discuté pendant qu'ils s'installaient. Et en fait, j'étais rentré et j'ai dit... ça peut vous paraître bizarre quand même de manger un cookies, hein, d'aller faire 17 bornes, 18 ou 20 bornes pour aller boire un café, manger un cookies. Je crois que c'est Runner Life, Damien, il m'a dit, mais de toute façon, regarde, tout le monde part de son salon, va courir 10 bornes et revient dans son salon au même point sans avoir bougé d'un millimètre. Donc en fait, en tant que coureur, pour quelqu'un qui fait pas de sport, déjà c'est bizarre ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire que on n'est pas dans du déplacement pour se déplacer d'un point A à un point B. On est dans un déplacement qui va du point A au point A, en fait. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye, et l'épisode avec Nak, on avait parlé qu'il appréciait, en fait, le fait d'avoir un trajet, d'aller prendre son vélo, de dire je vais de A à B, en fait, puis de B à C, etc., qu'il aimait bien cette notion-là. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est ce que je fais. Pour casser la monotonie, je me dis, aujourd'hui, j'aurai envie d'aller à tel endroit. Aujourd'hui, j'aurais envie d'aller à tel endroit. Tiens, aujourd'hui, là, il y a ce sommet, ça fait un bout de temps, je suis pas allé, si j'y allais. Par exemple, je sais qu'une année, pour le 14 juillet, je m'étais dit, tiens, je vais aller à tel sommet, puis le mur, etc. Ça fait 14 km pour y aller, pour aller-retour, etc. C'est cool, ça me fait descendre, ça fait des belles montées. Mais j'ai envie d'aller voir là-haut, faire une petite photo, au lever du soleil là-haut, et je vais y aller. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me fixe des objectifs. De même que l'histoire du café, une fois dans la semaine, en général le mardi matin, c'est souvent le mardi matin, je prends mon sac à dos, mon petit sac dans lequel je mets une cafetière portative, je mets un peu d'eau chaude, je mets un petit carré de chocolat, je prends un peu de café, et en fait, je vais me faire mon café là-haut, au sommet de ma petite montagne. Je me dis, oui, tu pourrais prendre un thermos, etc. Mais en fait, j'aime bien le plaisir, c'est-à-dire je m'installe sur un rocher, je regarde le soleil se lever, je fais mon petit café, etc. Ben ça, c'est un moyen aussi de ne pas tomber dans la monotonie. Donc, si je faisais tous les jours la même sortie, le même chemin précisément, ben oui, forcément que ça deviendrait monotone. Mais en fait, dans la semaine, je fais jamais le même parcours. L'autre jour, j'ai fait un parcours. J'ai dit, tu vois, c'est mon parcours habituel. Et en fait, Strava m'a remonté une stat, il me dit, ça fait la quatrième fois seulement que je faisais ce parcours-là. Pourquoi? Parce que cette route-là que j'ai prise ce jour-là, où j'ai l'impression de l'avoir prendre tellement souvent, et ben, ce jour-là, j'ai fait d'une manière, etc. Et le parcours que j'avais fait ce jour-là, je ne l'avais fait que 3 fois avant, en fait. Donc, en un an, et avant, je l'avais jamais fait en plus. En un an, ça veut dire que, grosso modo, sur les 365 fois, jours où j'ai couru, j'ai fait ce parcours-là vraiment que 4 fois, en fait, ce qui est ridicule. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de monotonie en allant courir tous les dimanches au parc. Mais parce qu'ils ont l'impression que tous les dimanches, ils font exactement le même parcours, ce qui est peut-être le cas. Moi, je casse cet esprit-là, en fait, en disant, bon, ben, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller courir, dans les chemins. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller courir au lever du soleil. Aujourd'hui, je vais aller courir, plutôt je vais aller chercher ma fille en courant, ou alors j'amène ma fille à l'école et je vais courir après. Je vais aller chercher un cookies, je vais aller à tel endroit, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester tel truc. Un jour j'ai envie de courir en basket, un jour j'ai envie de courir pieds nus, j'ai envie de courir en sandales. Tous ces trucs-là, en fait. C'est-à-dire que il y a pas un seul jour qui ressemble à un autre. Je fais pas de piste parce que les pistes sont fermées, donc j'ai pas d'accès à une piste. Mais je me dis, c'est moins monotone que quand j'allais tous les mercredis faire de la piste, etc., avec le club, etc., où on savait qu'il y en avait tourné 15, 20 fois autour de cette piste-là. Enfin, c'est une piste de 200 mètres, donc autant vous dire que des fois, on en faisait 30 ou 40 tours autour du truc-là pour aller faire certaines séances de VMA. Mais c'était peut-être plus monotone, en fait, hein, que ce que je fais maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Et après, sur les histoires de motivation, il y a un truc aussi, c'est que je vous ai donné les ingrédients dans l'épisode précédent sur la motivation, sur les éléments de motivation, etc. Et pour moi, il y a un sens qui est profond, en fait, à ce que je fais. Et il y a deux sens profonds. Il y a un sens purement très égoïste pour moi, qui est l'image du vieillard galopant, l'image de retrouver mon âme d'enfant, retrouver mon enfant intérieur, de dire j'ai envie de sauter dans les flaques de boue, j'ai envie de retrouver ces gamins qui couraient dans tous les sens. J'ai pas envie de vivre dans ce truc, j'ai passé 10 ans, plus de 10 ans, largement plus de 10 ans, dans un bureau, assis devant un ordinateur toute la journée. Et mon travail encore, là, vous voyez, je suis assis sur une chaise en train de vous parler dans un micro, ce qui peut paraître totalement bizarre quand on parle de running. Mais en fait, quand j'étais gamin, j'avais envie de courir, j'avais envie d'être un joueur de foot, pendant le Tour de France, on faisait du vélo, pendant Roland Garros, on jouait au tennis, pendant la Coupe du Monde, on faisait du foot, toute l'année, je faisais du foot. Il y a une époque, j'allais au tennis le mardi, j'allais au foot le mercredi, j'allais au foot le samedi, on avait entraînement aussi de foot des fois le jeudi ou le vendredi. Je faisais des tournois de tennis, faisais des trucs comme ça quand j'étais gamin, et puis tout s'est cassé à un moment donné. En fait, dans l'adolescence, tout ça s'est cassé. Et dans le début de l'âge adulte, tout s'est tellement tout cassé que je suis devenu le gros hamster, totalement, qui avait oublié en fait qu'il avait un corps qui fonctionnait, qui pouvait fonctionner mieux, etc. Le sens profond, il est là, en fait. Il est, en fait, de dire, mais en fait, depuis que j'ai redécouvert ce corps, mais qu'est-ce que je fonctionne mieux, quoi? Mais qu'est-ce que je suis mieux? Qu'est-ce que, déjà, je m'aime mieux. Déjà, quand je me regarde, je trouve que j'ai une meilleure tête. Je me trouve plus en forme, plus d'énergie, plus serein, plus, même si, objectivement, il y a des trucs qui sont dégradés dans ma vie sur ces dernières années, sur les revenus que je gagne par rapport à ce que j'étais quand j'étais salarié. Maintenant que je suis totalement indépendant, il y a des mois où il y a pas grand-chose dans les caisses, et puis il y a des mois il y en a un peu plus. Tant mieux. C'est aussi pour ça que sur le podcast il y a de la publicité. C'est aussi important. Et c'est aussi pour ça que je remercie ceux qui sont sur les Patreons, puis qui payent, sont dans la partie Hamster Zoning Club, le camp d'entraînement, c'est-à-dire la partie payante dans laquelle je mets des contenus complémentaires, etc. Et c'est mon équilibre, en fait, il est là-dedans, en fait, vraiment. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, il y a une autre motivation qui vient un peu de vous aussi, en fait. C'est-à-dire que vous m'envoyez tellement de messages en me disant « Oh punaise, mais ça m'inspire beaucoup. Grâce à toi, j'ai commencé à faire ça, je dois te remercier parce que grâce à toi, j'ai fait ça et tout. » Combien vous m'avez envoyé de messages? Ça fait 2-3 jours. J'ai des gens qui mettent des commentaires en me disant « Bah merci, ça fait 2 mois, je cours tous les jours, je me sens mieux. Grâce à toi, je me suis mis à courir, j'ai fait ça. Grâce à toi, j'ai fait ça et tout. » Et franchement, quoi. Enfin, l'autre jour, j'avais une citation. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait, je peux pas vous la citer, mais qui était de dire un peu, c'est finalement, on est l'idée, c'était de dire que on a réussi sa vie quand on a changé un peu la vie de quelqu'un d'autre. C'était un peu le sens un peu de ça et tout. Et c'est un peu là, ça fait un peu développement perso cette histoire, mais je dis pas que c'est ma mission en fait de vous aider à courir, etc. Mais c'est un peu la mission que je me suis fixée à travers ce podcast et l'Hamster Running Club, c'est vous accompagner dans vos efforts et de vous aider en fait à devenir les champions du monde de votre monde, championne et championne du monde de votre monde. C'est-à-dire, en fait, c'est vous dire, peut-être que je l'ai jamais fait de ma vie, mais j'ai envie de faire ça. J'ai peut-être jamais couru, mais j'ai envie de courir. Ça va peut-être être dur, mais j'ai envie de faire un marathon. J'ai envie de m'offrir un marathon pour mes 42 ans. J'ai envie de faire du vélo. J'ai envie de faire ça, je sais pas trop comment faire. Et moi, je suis là juste pour vous aider, pour vous accompagner. Par le podcast, par le Hamster Running Club, par les programmes, les pépites, etc., que je fais, qui sont des micro-formations, par des formations plus complètes, par du coaching individuel, il pourrait y avoir du coaching de groupe, etc., par de l'accompagnement, par tout ça, en fait. Mais c'est comment, finalement, je peux vous accompagner. Et ça, c'est notre motivation, en fait. C'est une vraie motivation aussi qui vient là-dedans, qui dit, je teste des trucs, je regarde comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon. Quand j'ai fait l'épisode sur Cohort Toltec l'an dernier, la notion de cohort Toltec, c'était, je me disais, mais comment tu peux te dire du mal de toi en tant que coureur? Comment pendant des années, je me suis dit, t'es un coureur nul, tu sais pas t'entraîner, tu cours lent. Et donc j'étais négatif avec moi. Vous voyez, je pourrais faire un épisode sur la communication non violente du coureur. C'est une bonne idée, ça, de faire mais cohort Toltec, c'était un peu ça, un peu le principe. Mais finalement, se dire, et si on appliquait les principes de communication non violente à notre pratique? Et l'autre jour, j'écoute un podcast en courant. Et je me disais, ce podcast et tout, je dis, putain, c'est pas terrible, quand même. Ça, c'est ma déformation. Mais je le dirais pas comme ça à la personne. Je dirais pas, attends, ton podcast, t'as vu comme tu parles, t'as vu ton son, il est merdique. Je dirais jamais ça. Je dirais, bon, écoute, peut-être tu pourrais peut-être essayer de faire ça, etc. Et ça, c'est avec les autres. Mais avec nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais t'es nul, tu sais pas courir, t'es nul, tu y arriveras jamais, à quoi ça sert que tu fasses ça, etc. C'est-à-dire qu'on est super violent avec nous-mêmes, en fait. Et tous ces trucs-là, en fait, j'essaye aussi de me dire comment, finalement, je peux progresser par le biais de la course, par le biais de ce que je fais autour, et comment, en fait, en vous l'expliquant, eh ben, je peux vous aider aussi à le faire. Et ça casse aussi sous cette logique un peu de monotonie, de toujours faire la même chose, etc. Parce qu'en fait, je suis dans l'expérimentation permanente, j'expérimente un nouveau truc, je me dis, qu'est-ce que je peux en tirer comme logique? Qu'est-ce que je peux vous expliquer, etc. La course pieds nus, la course sans sandales, ça en fait partie. Le minimalisme en fait partie. Et puis ce que je vais vous dire à la rentrée aussi en fera partie. Et ça sera une nouvelle partie de l'expérience. Et l'expérience continue, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon, ce qui me permet de passer à la grande catégorie suivante, qui est la catégorie sur l'organisation. Et j'ai bu un petit coup parce que ça fait quand même 52 minutes que j'enregistre. Et donc là, j'ai des questions... Beaucoup de questions sur l'organisation. Alors, je peux pas toutes les prendre séparément, mais on va les regrouper un petit peu. Par exemple, Marie Alouez qui me dit « Fais-tu encore des sorties longues 1h30 et plus ?» David qui me dit « À quelle moyenne fais-tu ta sortie du matin? Combien de kilomètres en moyenne, etc. ?» Bon, sur la moyenne, je l'ai dit, hein, que je fais des sorties à peu près, hein, mon temps de c'est 5,8 km sur l'année par jour, hein, en fait, hein, pas par sortie, mais par jour. Il y a eu des jours où j'en ai fait beaucoup plus, il y a des jours où j'en ai fait moins, il y a des jours où j'ai fait 2 km, des jours 2, 3, 5, 6, 4, etc. 10,2 certaines fois, et tout, enfin 8, enfin voilà. J'ai beaucoup de séances qui sont en dessous de 10 km. Mais 10 fois 7, ça fait 70 km. Hein. Rappelons-le. Quand même, j'ai des sorties à 10,5, j'ai des sorties à 17, j'ai des sorties à 100, je sais pas, je pourrais regarder, mais à 12, 13, 14, ouais, plein de sorties comme ça. Des sorties très courtes, des sorties plus longues, etc. Et puis, bien sûr, des sorties 21, 22, 23, 30 et 31, qui étaient le plus longues, celle du 496 Challenge. Donc, est-ce que je fais encore des sorties longues? Ben oui. Bah oui, ça m'arrive de faire des sorties longues en fait. C'est bien sûr que ça peut m'arriver. En général, ce que j'essaye de faire, c'est dans la semaine, je fais généralement une sortie qui fait un peu plus de 10 km. Alors des fois, elle fait 12, 13, des fois, elle fait 17. Mais par contre, je me suis sorti de la logique de regarder le kilométrage pur. Ma sortie longue, j'ai plutôt une tendance à gérer sur un aspect qui est pour moi peut-être plus... plus symbolique en fait de la fatigue qui peut se générer, c'est le temps de course en fait. Et donc ça permet de répondre à la question de Marie-Alle West, fais-tu encore des sorties longues 1h30 et plus? C'est exactement ça en fait. Je considère que quand je dépasse une heure, je rentre dans la sortie longue. À peu près, vous voyez, dans ces zones-là. Quand je passe une heure, je rentre dans la sortie longue. Et je suis un peu un adepte de dire que je préfère faire une sortie qui sera un peu plus intense, mais qui fera moins d'une heure, qu'une sortie qui va faire une heure trente, etc. À partir d'une heure trente, c'est là où on commence à avoir de la fatigue. Et les sorties qui font plus de deux heures n'apportent rien d'autre que de la fatigue. Faut dire, elles apportent la plupart du temps rien d'autre que de la fatigue. Mais c'est de la fatigue qu'on peut rechercher. Hein, ceux qui font l'ultra, ceux qui vont courir un marathon vont aller chercher de la fatigue qui va se générer sur deux heures de course et plus. Mais ça sert à rien quand on prépare un marathon de faire des sorties de 3h, 3h30. En fait, enfin 3h à limite oui, vous allez voir qu'avec un invité on en discute de ça. Mais moi je me rends compte que quand je faisais des sorties de 2h30, ça m'a suffi hein, pour préparer le marathon de Paris, d'avoir des sorties qui étaient dans ces zones-là. Sur les sorties marathon d'Albi qui était un peu plus longue, j'étais aussi dans ces zones-là autour de 2h30. Et moi je raisonne plutôt dans cette logique-là en fait, de dire ben finalement une sortie j'ai des sorties très courtes, vraiment très courtes, et là elles vont faire entre 10 et 20 minutes. J'ai des sorties moyennes qui vont être jusqu'à 45 minutes. J'ai des sorties qui vont commencer à vers jusqu'à 1h, 1h15, et puis à partir de là après c'est les sorties beaucoup plus longues qui elles génèrent plus de fatigue, demandent plus de temps, plus d'organisation aussi des fois. Ben elle, y en a une dans la semaine en général, sauf sur le défi du 487 challenge. Et donc oui, je les ai toujours, mais en fait, ce n'est pas la sortie de base. La sortie de base, je le répète, c'est des sorties endurance mentale, plutôt courir 20, 25 minutes, des choses comme ça, tranquillement, faire un petit tour du quartier, monter sur une petite montagne, prendre un peu de plaisir, faire 2-3 photos, rentrer, etc., tranquillement. Et puis après, derrière, ce que je vais faire, c'est il y a des jours, je vais faire des accélérations, des jours, je vais faire plutôt des côtes, il y a des jours, je vais faire un peu de essayer de faire un petit peu de seuil, des trucs comme ça que je pourrais faire. Mais voilà, grosso modo, je vais faire comme ça. Et donc, David, pour répondre à la question aussi sur à quelle moyenne, en moyenne, tu fais-tu ta sortie du matin, à quelle... Je crois que c'est à quelle heure plutôt la question a été posée. Moi, et combien de kilomètres en moyenne, donc la moyenne, je l'ai donnée. Sur l'heure, c'est très variable en fait. Alors en ce moment, bien sûr, les jours ont rallongé. Depuis le mois d'avril, mai, j'ai commencé à courir beaucoup plus tôt. Avec la chaleur en ce moment, je cours tous les matins. Il n'y a pas un matin où je pars. Le maximum la semaine dernière, je suis parti le plus tard à 7h du matin. Mais mon truc, ce serait plutôt d'aller courir, on va dire, dans la demi-heure avant le lever du soleil pour arriver à mon sommet avec le soleil qui se lève et le voir se lever là-haut. Ça, c'est plutôt mon objectif. Il y a une époque, je courais quand même plus tôt que ça. Cette année, je l'ai pas fait, mais il y a une année, je suis parti à 4h30 des fois le matin pour faire des sorties qui étaient plus longues que ça et pour me dire que quand je voyais le lever du soleil, c'était la fin de ma séance, qu'il me restait plus qu'un petit kilomètre pour redescendre à la maison, que vraiment je pouvais faire plus long. Maintenant, j'ai une stratégie qui est un petit peu différente. Je pars un poil plus tard et ce que je fais, c'est que en fait, je considère que ma petite pause lever de soleil, c'est peut-être une petite pause et puis après je repars en fait et je rallonge un petit peu ce qui se passe derrière. Pour une raison aussi, c'est que souvent j'allais chercher le pain, c'était et que si je revenais trop tôt, la boulangerie était fermée. Donc, j'ai calé aussi des fois mes séances sur l'heure du réveil de la boulangère, parce que qu'elle ouvre la boutique. Et encore qu'un jour, elle m'a dit, bah, il suffit de taper à la porte, mon mari est là, il y a des croissants qui sont prêts, etc. Et je le fais pas. Je le fais pas. Et dans mon organisation, je suis plutôt dans cette organisation-là. Mais j'aurais pu le faire. Hein, j'aurais pu le faire. Donc l'idée, c'est, l'été, c'est plutôt le matin, tôt le matin. Après, dans la semaine, il y a souvent des créneaux sur l'organisation qui sont de dire, ma fille, je vais les récupérer à l'école le mardi et le jeudi. Et donc, elle sort de l'école à 16h25. Et souvent, ce que j'ai fait, en fait, quand il faisait pas trop chaud, et comme mon ambition, quand même, c'est de courir quand il fait de la lumière, de la luminosité, prendre l'air quand il y a de la luminosité, et ne pas courir que de nuit, donc tard le soir ou trop tôt le matin, même si j'ai fait beaucoup de séances à la frontale, quand même, faut le dire, surtout dans le 496 Challenge. Il y a quand même, il y a beaucoup de d'après-midi, et donc c'était le mardi et le jeudi, comment on était organisé comme ça cette année. En fait, je partais courir du style à 3h30, et puis j'allais chercher ma fille à la fin de la séance. J'allais chercher ma fille, puis on allait au jeu, si j'avais pris un petit goûter, ou alors on faisait le goûter à la maison. Enfin, ouais, il y a un peu cette organisation-là, suivant la période de l'année. Et puis, il y a d'autres jours, en fait, je l'amenais le matin à l'école, en tenue, et puis en plus, j'allais courir. Et puis d'ailleurs, j'allais au marché boire un petit café et puis je revenais. Et puis ensuite, j'attaquais ma journée de travail. Ça, c'était souvent le vendredi matin. Mon organisation du vendredi matin était plutôt qu'elle est comme ça. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vous rappelle ce que j'ai dit, c'est que mon objectif, c'est de prendre l'air, de prendre le soleil, de voir la luminosité, de pas rester enfermé, etc. Et donc, l'hiver, c'est d'aller courir quand même sur des moments où il fait jour. L'été, c'est facile d'aller courir sur des moments où il fait jour, parce que il fait jour assez tôt, etc. L'été, la difficulté, c'est plutôt de trouver des moments où il fait plus frais. Et donc, après, j'ai des stratégies d'aller courir dans les petites rues, les petites ruelles, à l'ombre, etc., sous les arbres, dans les forêts. Enfin, il y a plein de tactiques comme ça qu'on peut avoir. Mais l'été, c'est vrai que moi, j'aime bien courir tôt le matin, voir le lever du soleil. Et j'ai fait quelques séances au coucher du soleil, mais très peu, parce que mon énergie, elle est beaucoup le matin. Elle est beaucoup plus le matin que l'après-midi, que le soir, etc. Et l'après-midi, ça va encore, parce que dans le créneau où je vais chercher ma fille, ça va. Mais sinon, après, le soir, j'ai eu beaucoup de séances tardives. Là, je pourrais le dire, parce que j'ai des questions aussi sur le fait que des fois, est-ce que j'ai eu peur de pas pouvoir faire mes séances. Et je vais vous dire, en fait, comment ça s'est passé dans certains cas. Moi, j'aime bien faire le matin. Et une autre question qui m'était posée, c'est Ramatrarija qui me demande si faire 3-4 km 5 jours par semaine et une sortie longue genre 8 km le samedi ou le dimanche, qu'est-ce que j'en pense? En fait, ça correspond à peu près à ce que je fais, sauf que moi en plus, je suis pas sur... Là, on serait sur 4 à 5 sorties par semaine. Moi, je suis plutôt... Bon, moi, je suis à 7. Mais en fait, c'est à peu près ce que je fais. C'est-à-dire que oui, j'ai 3 ou 4 jours, 3 ou 4 km... 5 à 6 jours dans la semaine, et puis une sortie un peu plus longue le dimanche ou le samedi. Donc oui, je suis d'accord, c'est ce que je fais. Par exemple, pour dire, pour la monotonie aussi, il y a un truc, le samedi matin, par exemple, je pars plus tôt, et je vais, j'ai une petite tradition, c'est que je vais au marché, je vais acheter un peu de viande, l'été, quand c'était la saison, là au printemps, j'achetais des fraises aussi, pour être sûr qu'il y ait des fraises. Donc dès qu'elle sortait les fraises le matin, la vendeuse au marché, en fait, je partais avec un peu de monnaie tout simplement, et puis j'allais acheter un peu de viande, et tant qu'il n'y ait pas trop de monde au marché, une barquette de fraises, et je rentrais, et comme ça on avait des fraises pour le petit déjeuner, faire un smoothie au petit déj et tout. Et puis des fois je passais par acheter un petit peu de pain, enfin voilà, des trucs un petit peu comme ça qui permettaient aussi de rentrer finalement l'activité sportive dans cette année comme étant un moyen de déplacement, en fait, et pas seulement un truc récréatif ou sportif, mais aussi comme un mode de vie, un mode de déplacement. Et donc comme ça, c'est aller chercher le pain. Je suis allé faire des fois des toutes petites courses. Je ne sais pas combien de fois je suis allé poster des lettres. J'ai dit je vais les poster, on a une lettre ou deux à poster, je vais le faire. Des fois je suis allé chercher des frites aussi en disant plutôt que de faire livrer des frites ou une pizza, je vais chercher les frites et la pizza en courant. Et puis c'est pareil, hein, c'est le même principe que le boulanger run, etc. C'est je vais faire 3-4 km et puis en rentrant, hop, je m'arrête, au lieu de se faire livrer, je m'arrête et je rentre à la maison. Donc c'est plein de petits trucs comme ça en fait dans l'organisation que j'ai mis en place. Brice qui me demande, as-tu fait beaucoup de sorties de 1 mile, 2 ou 3 kilomètres? Et si oui, as-tu trouvé un intérêt réel de toutes ces petites sorties? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que je l'ai eu aussi sur Instagram, par poser un peu différemment. Il y a un mythe, qui est le mythe de si une séance fait moins d'une demi-heure, elle ne sert à rien en endurance. Il faut faire minimum une demi-heure pour que on change de filière, d'énergie, etc., qu'on commence à perdre du poids, enfin voilà, et que sinon ce qui est en dessous ça sert à rien du tout. Moi je pense que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et je pense surtout que il vaut mieux faire une séance de 2 km que ne pas faire de séance. C'est-à-dire que le bonus à faire une séance même courte est largement supérieur à ne pas faire la séance en espérant qu'on fera une vraie séance. Et ça, c'est un truc qui est vraiment l'un des bénéfices incroyables de ce mode de vie que j'ai maintenant, de courir tous les jours. C'est que avant, par exemple, j'aurais dit un truc du style, alors aujourd'hui, j'ai prévu de faire une séance qui fasse 10 km, mais j'ai pas le temps, j'ai le temps que pour faire que 5. Mais enfin, mon programme, il marque 10. Donc, je vais pas la faire, ça sert à rien que j'aille la faire. Donc, j'ai refait un autre jour. Donc finalement, je serai dans un système où, et peut-être vous l'avez vécu, où finalement je fais pas ma séance, où je bouge pas, où je reste enfermé, je resterai à la maison, etc., sur ma chaise de bureau. Là, je dirais, ben, j'avais prévu de faire une séance de 10, je peux pas faire ma séance de 10, mais je dois quand même faire une séance, et donc peut-être qu'elle fera que 2 km ma séance, peut-être qu'elle en fera 3. Mais en tout cas, je vais faire ma séance, et je sais qu'en rentrant, elle me fera du bien. Et ça, c'est vraiment la logique de le fait est mieux que pas fait. Et c'est mieux que parfait aussi, des fois. Parce que quand on veut avoir les conditions parfaites, on se dit, alors, attends, si je fais pas ma demi-heure, hein, elle sert à rien. Si je fais moins d'une demi-heure, ça sert à rien. Donc, là, j'ai que 25 minutes, donc je la fais pas. Mais en fait, il vaut mieux faire 25 minutes que zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'autre jour, la remarque que j'ai eue, que j'ai trouvée très très intéressante, et je ferai un petit réel sur Instagram pour répondre aussi avec d'autres arguments plus sur d'autres trucs, mais qui était de dire, finalement, peut-être que dans les filières d'endurance et tout, il faudrait courir une demi-heure pour commencer, etc. Mais j'ai lu aussi des livres, et l'auteur disait que finalement, ce qui compte, c'est plutôt le volume d'activité sur la journée. Et lui disait, si on fait trois fois 10 minutes ou une fois une demi-heure, globalement, on dépense la même chose. Au niveau énergie, calories, etc., on dépense la même chose. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, moi, je suis la preuve que, par exemple, sur le 496 challenge, au mois de janvier, il y a un jour, le jour du, c'est le 18 janvier, c'est simple, et j'ai pas fait 18 km d'un coup, j'ai fait 6 fois 3 km. Bon, j'ai prévu de faire une vidéo, mais la vidéo était tellement nulle que je l'ai jamais publiée. Mais le truc, c'est que, ma femme, elle m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais je dis, mais parce que ça m'amuse, parce que c'était le fun. C'était le truc de dire, le matin, je parcours à 9h, je fais 3 km, je rentre, je travaille, toc, 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 toc. Et puis à 10h, pouf, je repars 3 km. Toc, 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 toc. À 11h, je refais ça, tac, tac, tac. À midi, j'ai fait ça. À 13h, j'ai même fait une sieste. Sur la partie entre, vous voyez, 3 km, fait 20 minutes, grosso modo. Donc j'entre à la maison, hop, je me fais une petite sieste, je repars, hop, tac, 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 tac. Alors forcément, mon travail a été super saccadé. Mais ce jour-là, c'était un mardi. Et j'ai cherché ma fille en plus à l'école et tout. Donc j'avais calé mon histoire comme ça. Et en fait, j'étais quand même super efficace. Je peux vous garantir, j'étais super efficace parce que la preuve, c'est que ce jour-là, j'ai publié mon épisode de podcast. J'ai préparé les billets de blog, les billets de réseaux sociaux. J'ai préparé plein de trucs, etc. En disant que bah finalement, il me restait que 30 minutes dans ma journée pour travailler sur l'heure. J'avais pas une heure, mais que j'avais à chaque fois 30 minutes pour travailler. Et donc, je les ai rendus super efficaces. Mais là aussi, c'est un petit jeu, en fait. Et à la fin de la journée, bah déjà, ça m'avait baissé ma fatigue par rapport à faire 18 km d'un coup, qui m'aurait fait, en courant 9 km heure, qui m'aurait fait un effort d'environ 2 heures. Là, finalement, j'ai réparti la fatigue sur l'ensemble de la journée. Et grosso modo, j'ai sorti de ma journée en ayant fait la sieste, en ayant travaillé, en n'étant pas fatigué, en étant disponible pour ma fille après le soir et tout. Donc finalement, beaucoup, beaucoup de bonus. Donc, sur cette histoire de séance, moi je pense que il vaut mieux faire, si on a que pas beaucoup de temps le matin et qu'on a un peu de temps le matin, un petit peu le soir, bah, je suis d'avis plutôt de dire, je vais faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça fera une demi-heure, plutôt que d'espérer un jour avoir une demi-heure le soir ou le moment idéal. Je préfère faire deux fois une demi-heure que me dire bah non, j'ai pas le temps de faire une heure quand je voulais faire et donc ça sert à rien que je le fasse. Voilà. Et pour rajouter un truc, cette séance là de 2-3 km, je peux garantir Brice que tu peux y mettre en plus une intensité qui peut être très élevée. On en parle dans l'épisode de la semaine prochaine avec mon invité. Mais l'échauffement en fait n'a pas besoin de faire 30 minutes. On peut faire un échauffement en 10 minutes avec d'échauffement des mouvements type des squats et compagnie pour compléter, c'est-à-dire courir un peu, faire des montées de genoux, après faire du polyarticulaire, des choses comme ça qui vont faire monter le cardio, qui vont chauffer les muscles. Et ensuite derrière, on peut faire des accélérations. Et j'ai même des séances, on en parle, ce que j'ai dit, ça m'a fait rire de voir ça, mais j'aurais presque pu avoir des séances où j'ai peur de pas faire ma dose de, non pas en temps, mais en distance. Parce que finalement, je me suis rendu compte que quand il est très chaud, que j'ai pas besoin d'avoir un super échauffement, j'allais jusque vers le petit chemin où j'avais une petite forêt à côté. Et puis je faisais des montées, des descentes, des petites côtes. Et ensuite je rentre. Et ben, en faisant ça, en fait, je suis à même pas 1,5 km en faisant ça. Pourquoi? Bah, parce que, pour arriver à cette petite forêt, si je veux éviter de passer en plein cagnard, eh ben je vais passer par le petit chemin, je vais faire 600 et quelques mètres. Ma petite montée, je vais faire des 30-30 dessus. Et comme c'est un peu raide, eh ben je vais faire peut-être 50 mètres en montée, 50 mètres en descente. Si je fais ça 10 fois, ça fait 500 mètres. Et si je rentre à la maison en faisant 600 mètres à nouveau, eh ben finalement, je suis à peine à 1,7 km. Et donc, elle paraît pas cette séance. Elle rentrerait à peine dans mon quota de ce que je dois faire de 1 mile. Et pourtant, en intensité, monter le cardio qui est monté, les côtes, etc., elle a une intensité qui est beaucoup plus élevée que d'avoir fait des fois 5 ou 10 km en endurance mentale. Et donc là, on vient maintenant sur une stratégie de dire bah, je peux faire moins, mais mieux. Et pour ceux qui sont dans le Hamster Running Club, dans la partie ce que j'appelle le camp d'entraînement, c'est-à-dire la partie payante, j'ai fait une pépite. Et en fait, je l'ai même tout le monde là dans le Hamster Zoning Club. C'est-à-dire, du moment que vous inscrivez au Hamster Zoning Club, vous verrez cette pépite-là que j'ai rendue gratuite, qui est sur l'analyse de certaines de mes, comment je fais du Strava, comment j'utilise Strava pour analyser mes courses. Et je parle de la mesure d'intensité dans Strava. Et, donc vous avez un lien, dans les notes de l'épisode sur le, pour venir, vous pouvez même l'avoir en gratuite, parce que celle-là, je l'ai offerte, cette pépite-là, pour montrer un peu, ce que je trouve que c'était intéressant de le voir, de dire que j'ai des sorties, qu'ont des points d'intensité sur ce travail, il va mettre une note de 6 en intensité, puis d'autres, il va mettre 50, 80, etc. Et je montre que certaines sorties qui sont longues ont des points d'intensité qui sont plus faibles que des sorties qui sont plus courtes, mais sur lesquelles il y a eu plus de vitesse, plus de côtes, plus de dénivelé, etc. Et c'est ça, en fait, que je mesure. Donc, finalement, c'est pas l'histoire de 2-3 km qui compte. C'est plutôt l'histoire de l'intensité mise sur ces 2-3 km. Et par exemple, ceux qui font un peu de myocross, etc., connaissent un peu ce type d'entraînement, qui est de dire, je vais faire un truc qui va te dire, par exemple, je vais faire de la corde à sauter, et puis ensuite, derrière, je vais faire une minute d'accélération. Corde à sauter, minute d'accélération. Ou alors, je vais faire une minute de chaise contre un mur, et puis je fais ensuite une minute à une vitesse un peu, genre la vitesse d'un 10 km, une minute de chaise, dit ah, tac tac, et ça je fais ça pendant je sais pas, peut-être je répète ça pendant 20 minutes. C'est-à-dire que ça fait 10 minutes de course, 10 minutes de chaise. Bah, ça paraît pas, mais en volume de course, ça fait pas un kilométrage qui est important. Par contre, au niveau musculaire, niveau résistance qu'on a mis dans les muscles, etc., c'est une intensité qui est très forte. Donc moi je suis pas pour mesurer, en fait. Ce que j'ai beaucoup vu, en fait, c'est que je suis pas sur la mesure de kilomètres. Même si pour ceux qui suivent sur Patreon, et sur l'Hamster Zoning Club, dans l'épisode privé du lundi, je donne le kilométrage que je fais par semaine, qui est en général entre 40 et 50 km par semaine, à peu près, grosso modo. Qui l'objectif, c'est d'en faire minimum 20 par semaine. Ce qui est très rare que je m'arrête à 20 par semaine, mais qui peut arriver que je sois descendu à 22, 23, 28. L'idée, c'est plutôt de monter entre 40 et 50, d'avoir à peu près ce volume-là, mais que ce volume-là, il y a une intensité suffisante sur certains jours. Parce que voilà, il y a un jour, je vais faire 17 bornes pour aller boire un café, mais je vais faire à tellement petite vitesse que ça va pas être fatigant. Et par contre, à côté, la veille ou deux jours avant, je vais plutôt mettre un peu d'intensité. Donc sur l'organisation, pour répondre à ta question Brice précisément, voilà, c'est un petit peu aussi ça qui joue là-dedans. T'as un dame de la colline qui pose une question. Le jour où tu es claqué, tu cours combien de temps? Ben, c'est là où je fais que 10 minutes, en fait. Sur le principe, c'est là où je vais faire pas beaucoup de temps, je vais faire une dizaine de minutes. Ça arrive, hein, les jours, on est claqué. Tout le monde est claqué. Par exemple, je disais, en ce moment, j'ai des douleurs qui sont revenues. La nuit, là, qui vient de se passer, là. J'ai dormi, bon, déjà, on a fini d'enregistrer l'épisode de très tard. L'épisode que vous écouterez mi-août. On a fini d'enregistrer très très tard parce qu'on était très très bavards. Mais c'est très très passionnant. Et, j'avais 2-3 trucs à faire, un peu préparer les choses pour aujourd'hui, etc. Et puis ensuite, je me suis couché à 1h. Et à 4h, j'étais réveillé. Donc ça veut dire que j'ai 3h de sommeil. Donc, autant dire que là, tout à l'heure, je vais faire la sieste. Hein. Je finis d'enregistrer l'épisode, je fais la sieste. Et mais j'étais, ce matin quand je suis parti, je suis un peu claqué. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire une séance vraiment à la cool. Et ce que j'appelle une séance à la cool. Alors, j'ai même pas regardé la distance, mais je peux vous la donner. Je vais vous la donner en direct. C'est, on est plutôt dans une séance. Bah ouais, mon à la cool maintenant, c'est 37 minutes, 4 km 40. Donc c'est une intensité faible en fait. Et c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que je vais faire partir pour 10 minutes, souvent plus, parce que pour faire un miles en 4 km 6 en petite vitesse, il faut un poil plus. Et puis si je me sens que c'est un peu mieux, que je me sens un peu mieux, etc. Bah il y a des endroits, je sais, je vais pouvoir allonger, etc. Mais les jours où je suis fatigué, ça peut arriver. Hein, quand ma fille était malade, il y a des jours elle était malade. Il y a une nuit, je me suis levé peut-être 5 ou 6 fois pour aller la voir. Une nuit, elle a vomi. Il a fallu échanger les draps dans la nuit. Et puis après, elle est venue dormir avec nous. Enfin, vous voyez, on se réveille le matin. Je dis mais on a dormi, on n'a pas dormi. J'ai l'impression d'être plus fatigué en me réveillant le matin que d'avoir dormi et tout. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que déjà, il y a un truc que je sais, c'est que je suis mieux après avoir couru que si je n'y vais pas. Ça, je sais que le fait de courir, ça va me faire du bien. Donc, les jours où je suis claqué, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais prendre mon minimum. Et c'est pour ça que j'ai fixé aussi qu'un minimum qui soit qu'à 10 minutes de course et un kilomètre, enfin, un miles. Le miles, en fait, il correspond à un site sur lequel je suis maintenant inscrit. Ma série va être inscrite, qui s'appelle Run Every Day. En fait, c'est une association américaine des runners quotidiens. Et donc, pour rentrer là-dedans, il faut faire un miles par jour. C'est leur contrainte, en fait. C'est le truc, c'est 10 minutes et un miles par jour. Et le 10 minutes, en fait, le 10 minutes, il vient plutôt d'un Américain qui s'appelle Ella Good, qui court, lui, depuis 5 ans, tous les jours. Et des jours, il fait beaucoup plus. Hein. Il a traversé les États-Unis en courant. Et puis, il y a des jours, il fait 10 minutes. Et en fait, au début, il est parti sur un défi qui était de dire, pendant 15 jours, je vais courir 10 minutes par jour. Ça fait maintenant 5 ans que ça dure, son histoire. Et donc ça, c'était un peu mon premier modèle. Et donc après, il y a eu ce modèle-là de l'association des coureurs quotidiens, etc., qui référence des gens qui... Il y en a un qui a couru pendant 36 ans, courant tous les jours, et qui, des fois, faisait que 10 minutes, 10, 15 minutes, pas plus. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Joe Strombrunt, qui est le recordman du monde du marathon des plus de 70 ans. Bon, il court le marathon en moins de 3 heures. Hein. Il a fait presque 80 marathons en moins de 3 heures dans sa vie, en commençant la course qu'à 36 ans. Et donc, c'est un truc qui est quand même impressionnant, quoi. Et l'autre jour, je regardais, il a des séances, il va courir, il va faire 20 minutes, 25 minutes. Mais par contre, il va le faire 3 pas par jour. Parce que, grosso modo, ça lui, il limite la fatigue. J'ai fait une vidéo d'analyse sur ses entraînements. Il va limiter la fatigue d'une séance. Il va limiter le temps de sortie, il va limiter la charge que ça lui fait, il va limiter le temps, le répartir le temps sur sa journée, etc. Bon, lui, il est retraité, il aurait le temps d'en faire plus. Mais en tout cas, il va peut-être aussi pouvoir se joindre à d'autres personnes qui vont venir courir avec lui à un moment donné, casser la monotonie. Il y a plein de tactiques comme ça. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de courir. Même si vous voulez faire 2 heures, vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures d'affilée. Vous pouvez faire 1 heure d'endurance le matin tranquillement, et puis un truc 1 heure à midi ou le soir, etc. si ça vous fait du bien. Et si vous êtes fatigué, ben comme moi, ça arrive et ça arrive à tout le monde. Et ben c'est plutôt, je vais faire plutôt, ben plutôt 10 minutes, et puis 10 minutes, si et plus. Hein, c'est ça. C'est si tout va bien, si je me sens bien, si je ressens un peu le besoin d'en faire un peu plus, je vais un petit peu allonger. Il y a un truc que j'ai remarqué par contre, c'est le jour où je suis où avec ma fille m'a cassé les pieds sur des trucs où c'est très compliqué à gérer, etc. Là, il y a un point qui est important, c'est que on pourrait penser que courir va faire du bien, va permettre de dégager les émotions négatives. Et en fait, c'est les pires séances sont celles-ci. Et parce que ça, on a besoin de se défouler, on court trop vite, on est claqué, etc. Et là, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est un peu ça ma stratégie. Alors, une autre question de Brice. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire comme toi, surtout niveau organisation? Alors, j'en ai beaucoup parlé quand même sur l'organisation. Déjà, c'est de se fixer un cadre et de dire, je cours bien que 10 minutes par jour et c'est le minimum que je dois faire. C'est le truc. Mon minimum, c'est pas de faire, par exemple, 10 km. C'est pas de dire une heure. Parce que je sais qu'une heure, il y a des jours, ça passerait pas. Il y a plein de jours où ça passerait, mais il y a des jours où ça passerait pas. Le truc, en fait, c'est de dire que qu'est-ce qui est indolore dans mon quotidien, c'est 10 minutes par jour. C'est de l'indolore, en fait. Vraiment de l'indolore. Une demi-heure, c'est du douloureux. 10 minutes, c'est l'indolore. Et en fait, vous avez un très bon moyen pour le mesurer, mais ça marche aussi pour la méditation, etc. C'est vous poser la question de vous dire, je voudrais bien faire, par exemple, 20 minutes de course. Mais est-ce que faire 20 minutes, est-ce que ça me demande un effort ou est-ce que c'est indolore? Si ça me demande un effort, j'aurai 8 minutes. Est-ce que 19 minutes, c'est indolore ou c'est un effort? C'est encore un effort? 18, 17. Et au final, à un moment, ils arrivent à 10 en disant, bah 10, finalement, c'est de l'indolore. Je peux faire 10. Et voilà. Et niveau organisation, moi, je vais courir le matin en mode fantôme quand tout le monde dort à la maison. Je vais chercher ma fille en courant. Je vais des fois faire 2-3 pieds de course en courant. Je prends plein de prétextes, en fait. Un jour, ma femme, elle me dit, oh, on a plus de ketchup. Je dis, bah, attends, t'inquiète pas, je vais y aller. J'y suis allé en courant. Je suis pas allé en, et c'est ce qui m'a fait ma séance. C'est ce qui m'a fait ma séance. Ma fille, elle veut aller au jeu un dimanche matin. Je dis, bah, écoute, oui, on va aller au jeu. Sauf qu'on va se garer un peu plus loin, prendre la trottinette. Je cours à côté de toi. Et puis voilà, on était 10 jours tous les deux avec ma fille, et sans moyen de garde, etc. Donc tous les deux, vraiment, elle a eu un jour d'école, et puis après c'était les vacances, là, c'était au mois de juillet. Et ben tous les jours, il y a un jour on est allé chercher en alternance course-marche et tout, tous les deux, elle a 4 ans et demi, elle courait un petit peu à côté de moi, on courait un peu, par moments on marchait, etc. Ben un jour je dis, écoute, ça te dirait qu'on mange des frites? Bon, on est allé chercher des frites, ben, on est allé le faire en courant, en marchant. Donc l'organisation, en fait, c'est d'aller trouver des moments dans la journée où... il y a des petits créneaux, en fait, où au lieu de les remplir avec de la télé, ou au lieu de les remplir en disant « Ouais, bon, j'aimerais bien faire une séance de sport, il faut au minimum 30 minutes, etc. » Ben, c'est de dire que non. En fait, 10 minutes, ça suffit. Et que ces 10 minutes, il y a des jours, je suis parti courir à 22h. Enfin, voilà, 21h49, 22h, etc. Mais comme c'est que 10 minutes, je me dis « Bon, je fais le petit tour du pâté de maison, et je reviens, et tout, pop, je reviens, et puis c'est fait. » Voilà. Et ça passe. Si par contre ça devait faire une heure, ben là ça deviendrait plus compliqué à faire. Mais l'idée c'est ça. Maintenant après, j'ai plein de stratégies sur l'organisation, etc. Et je pourrais y faire 2 heures ou 3 heures là-dessus. Mais en fait, dans le Hamster Zoning Club et sur mon site, et là celle-ci, vous pouvez l'acheter, j'ai fait un petit programme qui s'appelle Cours Toujours et où je donne tous mes conseils sur comment vous justement vous allez pouvoir faire ça aussi. C'est quelque chose que j'ai publié il y a quelques semaines, donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est un petit programme qui s'appelle Cours Toujours où j'ai partagé en fait mes recettes pour s'organiser, pour gérer la fatigue, gérer l'organisation, le sens profond que ça a, pourquoi on le fait, etc. Et comment je me suis organisé pour faire ça. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, parce que j'ai mis plein de détails dedans, je parle vraiment de mon expérience, de comment je le fais, comment je me suis organisé, comment j'ai structuré toutes les choses, etc. Il y a plein de petits éléments en fait qui vont jouer sur dans des trucs dont j'ai parlé aujourd'hui, hein, comme le temps, délimiter des périodes de temps. Je sais par exemple que tel jour je peux aller faire à telle heure. Je sais par exemple que le week-end, ma femme était en formation pour devenir naturopathe, donc il y a un week-end sur deux, mais des fois il y a eu 3 week-ends d'affilée ou 4 week-ends d'affilée où elle partait le matin, le samedi matin et le dimanche matin à 8h, qui est rentrée le soir à 18h, et donc tout le reste du temps j'étais par exemple avec ma fille. Donc ce qui veut dire que les seuls moments de course, c'était soit pendant que tout le monde dormait, mode fantôme, soit le soir, une fois que ma fille était couchée, principalement parce que ma femme est rentrée fatiguée aussi de son école, etc. Et donc l'idée c'était plutôt de dire, ben je vais prendre le créneau qui est le plus simple pour moi, c'est le créneau du matin, et moi ça me va bien, même s'il faut partir à la frontale, même si il y a un jour c'était hyper verglacé, ça glissait dans tous les sens, etc. Mais en fait, une fois que c'est fait, et plus tôt c'est fait et plus c'est facile à faire, en fait, pour moi. Et donc une fois que c'est fait, il y a rien qui peut s'intercaler le matin, en fait. C'est j'ai envie de dire, je me lève, je saute dans mes baskets et je m'en vais, quoi. Alors je mets un short quand même, mais un t-shirt. Mais ce matin, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce matin, je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, j'ai mis mon short, j'ai mis mon t-shirt, j'ai mis mes baskets sans chaussettes, et je suis parti. Voilà. 10 minutes après m'être, et encore je dis 10 minutes, je fais un petit passage par les toilettes. 10 minutes après de m'être levé, j'étais en train de courir et tout, et je suis rentré, et quand je suis rentré, tout le monde dormait, et c'était vraiment le mode fantôme, sauf que j'avais fait mes 4,5 km ou presque, là, etc. Et voilà. Donc c'est vraiment comme ça que je gère ça sur l'organisation. Je sais qu'il y a des jours qui sont plus faciles à caler. Je sais par exemple que le lundi, le vendredi, je pouvais y aller en fin de journée. Le mercredi matin, ma fille, cette année, elle est au yoga. Et ben, de yoga, c'était 10h-11h. Et ben, c'était mon période où je disais, ben, je mène ma fille au yoga. Et puis, au lieu de rentrer à la maison ou d'attendre sur le parking, en lisant un bouquin, ben, je partais avec mes affaires, je courais dans le coin là-bas. Et puis, quand elle sortait à 11h du yoga, ben, on rentrait à la maison. Moi, j'avais couru, elle a fait son yoga. Donc, c'est vraiment la partie organisation, elle est vraiment structurée sur quels sont les créneaux. Où est-ce que je peux aller chercher les créneaux de temps disponibles, etc. Et l'an prochain, si elle fait de la danse ou de la musique ou quoi que ce soit, ce sera à peu près le même truc. C'est-à-dire que ça va être de recalculer quels sont les créneaux. Je vais la chercher à l'école tel jour. Je sais, par exemple, que comme j'allais la chercher à l'école à 16h25, bah, il faut que je parte au maximum à 4h de la maison. Et je sais que à 4h, il faut que je parte et que maximum à 4h de la, en partant à 4h de la maison, j'aurai une séance qui fait 25 minutes. Et donc, j'arrive à l'école. Il y a juste 2 jours où j'ai eu peur. Ça m'a mis un coup d'accélération. Et là, c'est drôle parce que c'est, il y a une fois, c'est à l'école où je me retrouvais au sommet de ma petite montagne et j'ai regardé le truc. J'ai dit, oh, punaise, mais il faut que je me dépêche. C'est que ce jour-là, au lieu d'aller directement à l'école, j'ai fait un petit détour pour aller plus loin parce que j'avais envie de courir sur les chemins. Et à un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh là là, vite, faut que je me dépêche. Et donc là, j'ai fait une bonne séance d'accélération. Et une autre fois, ma fille est au yoga et puis je passe dans des petits passages, etc. J'étais à la cool. Et je croise une ancienne invitée du podcast, Marion-Laure Blanchet, et on discute. Et au bout d'un moment, je regarde l'heure, je dis, oh, punaise, il faut que j'aille chercher ma fille. Mais je me suis dit, bon, voilà la distance que j'ai, il va falloir que je fasse une bonne séance. Ben, ça m'a fait une bonne séance de seuil. Voilà, c'est des fois, je me fais des petits coups de flip comme ça, mais je suis arrivé pile à l'heure, pile dans les créneaux, etc. Et donc, je sais que dans mes temps d'organisation, il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent en disant, ben là, je sais qu'à tel moment je peux y aller, à tel moment je peux y aller. Et puis, il y a quelques warnings que je mets dans mon emploi du temps en disant, attention, ce jour-là, ça peut être un peu compliqué. Ça peut venir de la météo, ça peut venir de la pluie qu'ils peuvent annoncer, ça peut venir de la distance quand c'était 496 challenge. Et c'est là où il y a un petit peu plus de surveillance. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça. Manu Barito, du coup, pas de coupure annuelle. Bah non, pas de coupure annuelle. Alors, attention, pas de coupure annuelle. En fait, j'en ai fait une. C'est juste que je fais une coupure annuelle en courant. À quel moment j'ai fait une coupure annuelle cette année? Au mois de février. Par exemple, si je prends... alors, je vais essayer d'aller sur mon Strava. J'ai pas chargé mon Strava à l'avance, mais je peux essayer d'aller sur mon Strava. Parce que mon Strava, on voit bien sur Strava, c'est le gros avantage, en fait. On voit très bien les délimitations mois par mois, en fait. Je trouve que le calendrier est assez bien fait là-dessus. Je vous rappelle donc que j'avais, au mois de janvier, j'ai fait mon 496 challenge. Hop, alors, il faut que je ferme ce truc là. Voilà. Et si je prends mon calendrier d'activité, donc j'ai fait 509 km au mois de janvier. Et au mois de février, j'en ai fait, attention, tac 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 tac, j'ai fait 79 km. Mois de janvier, j'ai couru 58 heures. Au mois de février, j'ai couru 10 heures. 10 heures réparties sur 28 jours. Donc vous voyez que la moyenne est très faible. Et en fait, c'est j'ai fait que des petites journées de récupération, des 2 km, etc. Enfin, vous voyez, la moyenne 28, 79, 80 km divisé par 28 jours, ça fait une moyenne de 2,5 km, des sous-trucs comme ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait des petites séances, mon lever de soleil, j'allais moins loin, etc. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que ma sciatique est revenue, en fait. Je vois autour du 20 février, petit à petit, le fait de retourner dans quelque chose qui était plus statique, avec plus de canapés, plus de chaises, parce que moins de mouvement, hein, de passer de 58 à 10 heures, finalement, ça enlève beaucoup. je me suis rendu compte que je m'étais un peu encrouté sur cette période de coupure. Et c'est pour ça qu'après, petit à petit, j'ai remis un petit peu de volume. Et puis, par exemple, en mai, j'étais à 23h, 22h. En juin, dans ces zones-là, vous voyez, je suis remonté dans ces volumes-là, où je suis plutôt sur un volume de temps d'activité, en fait, qui est plutôt de dire, je bouge en moyenne 1 heure par jour, plutôt que là, sur ce mois de février, j'étais plutôt à 20 minutes par jour, quoi. D'activité. Donc voilà, c'est un peu la moyenne, c'est plutôt 41 minutes par moyenne, c'est 41 minutes. Il y a eu des jours où il y a eu beaucoup plus, il y a eu des jours où il y a eu beaucoup moins. Mais grosso modo, on va dire que mes deux moments de coupure annuelle, ils seraient, et ça vous le savez à peu près, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, l'automne, mois de novembre, où là, mois de novembre, c'est un mois moi, franchement, si je pouvais l'enlever du calendrier, j'enlèverais. Je n'aime pas le mois de novembre, c'est comme ça, mais bon, j'ai quand même fait 154 km au mois de novembre dernier, hein. Donc en faisant mes séances tous les jours, etc. Mais c'est pas le moment que je préfère et tout, j'aime pas trop avec la grisaille, il y a eu des jours un peu presque neigeux, etc. C'est pas le truc, hein, c'est pas le moment que je préfère, mais là où j'aurais fait deux coupures annuelles, ça aurait été plutôt sur novembre, et sur février, un peu cette année, c'est-à-dire finalement dans ces zones-là. Ça a été moins le cas, c'était moins marqué en fait un petit peu cette année, sauf sur ce mois de février, février-mars, où j'ai fait moins d'activité, et ce qui était aussi une promesse que j'ai faite à ma femme, de dire j'avais été beaucoup un gros challenge sur la partie janvier. Et donc je baissais aussi en mars, je baissais mon volume en février, et en mars j'ai commencé à le re-augmenter en fait aussi à nouveau, et j'ai re-augmenté le kilométrage. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que par exemple au mois de février j'ai couru 10 heures, j'ai fait 79 km, mais au mois de mars j'ai augmenté en fait la distance, j'ai bien augmenté la distance. Bon, j'ai fait aussi un petit peu de vélo, un petit peu de choses comme ça, et en fait j'ai augmenté mon temps d'activité, mais j'ai bien augmenté aussi la distance, c'est-à-dire que j'ai un peu augmenté la vitesse en fait aussi. Au mois de février, c'était vraiment une coupure annuelle, c'est-à-dire courir peu et très lentement, et au mois de mars, c'était courir un peu plus et un peu plus vite, ce qui fait que quand on regarde les courbes un peu de volume d'activité, etc., je double presque ma distance courue en fait au mois de mars sans doubler mon temps d'activité. Et ça, c'est quand même c'est ce qui est intéressant aussi quand on fait les ratios entre le temps de course, la vitesse, l'intensité qu'on va mettre, etc. On peut pas faire des calculs que sur un élément. Il faut regarder sur la globalité. Et dernière question dans cette catégorie-là, bon, j'en ai quand même beaucoup parlé. Maria Laura qui me demande comment ta famille, ton épouse, ta fille, mais la famille au sens large, a vécu cette année. As-tu reçu du soutien efficace? Alors, ma fille a compris que je courais tous les jours, et elle m'appelle papa coureur, et c'est papa il court tous les jours. Et ça maintenant, elle a intégré le truc, elle le dit, elle le répète, etc. Ça l'amuse. Et des fois elle me dit, mais papa, t'as pas couru ce matin? Et je lui dis, ben si, pourquoi? Elle me dit, t'as pas ton t-shirt de course. Alors c'est que généralement le matin quand je vais courir, quand je reviens, je mets un t-shirt sec, et souvent c'est un t-shirt de coton classique en fait. Et donc dans ce cas-là, elle me voit avec le t-shirt en me disant bah non, t'as pas couru puisque t'as pas ton t-shirt de course. Ce matin, j'ai eu droit plutôt à ah papa, je sais que t'as couru parce que tu sens pas bon. J'entends la transpiration. Et donc là, c'est un peu le truc comme ça, mais pour elle, c'est elle veut faire comme moi en fait. C'est-à-dire que elle me dit bah moi aussi je veux bien courir un peu tous les jours, faire un peu de sport tous les jours. Quand je sors le tapis pour faire du renforcement, elle fait du renforcement. L'autre jour, j'ai sorti des élastiques, elle a sorti des élastiques. Enfin voilà, on est un peu dans ce jeu-là, qui me va très bien, parce que moi j'aime bien le modèle, et j'ai dit que c'était important pour moi aussi, on parlait de motivation tout à l'heure, c'est important pour moi d'être un modèle pour elle, de modèle de quelqu'un qui bouge, qui a du dynamisme sportif, dynamisme entrepreneurial, dynamisme global, du sourire, etc. Et que pour moi, c'est une image importante à lui donner. Après, pour ma femme, le moment qui est difficile à gérer, c'était quand même le mois de janvier où il y a eu quand même plus de kilométrage. Et il y a eu mon truc, c'était de dire comment je fais pour arriver à faire en sorte que cette activité-là ne la dérange pas, elle, dans sa préparation de sa certification de naturopathie, son examen de naturopathie qu'elle a passé dans quelques temps. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai dit c'est mon choix à moi. Et elle était pas super... elle avait un peu peur quand même, elle était pas super contente du truc. Mais elle m'a dit, c'est pas maintenant que tu vas lâcher, un soir, je lui dis, franchement, j'ai pas le temps de le passer, mais elle dit, mais si, écoute, t'as le temps encore. Ouais, et c'était le 21. Et j'ai fait un semi-marathon, mais en partant, je le fais dans la brume, dans le brouillard ce jour-là, quoi, en fait. Et je fais sur une zone autour d'un stade, etc. Et ce jour-là, elle me dit, t'as le temps d'y aller? T'as le temps de la faire? Oui. Bah, vas-y. Et puis, moi, je m'occupe du reste, etc. Et ça, c'est, je dois la remercier là-dessus. Je suis en train de regarder, c'était jour 180, en plus, ça tombait, ouais, un semi-marathon le jour 180, c'était presque moitié d'année. Et je pars, en fait, ce jour-là, je pars, dans mon souvenir, il fait nuit, mais je pars à 18h, 19h, enfin, à 18h. Et je fais donc je reviens, je le fais en 2h19 en fait, mon semi-marathon ce jour-là, dans le brouillard, j'étais un peu cuit, etc. ce jour-là. Mais donc elle avait géré le repas avec ma fille, le coucher, etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle m'a soutenu aussi. Il y a des soirs, je dis attends, je vais courir. Alors souvent ce que je fais, c'est que surtout là, à cette période-là, si j'ai pas couru de la journée et qu'on arrive le soir, j'attends que ma fille soit couchée et je vais courir. Je dis à ma fille, je dis écoute Camille, je vais courir, je pars pas longtemps et puis je reviens te faire un bisou en rentrant. Et souvent ça tombe sur l'heure autour de 21h dans ces zones-là, là, et donc je fais des séances l'autre jour 21h40. Et pour revenir sur l'organisation d'ailleurs, il y a même un truc, c'est que c'est le genre de fois où je vais partir. Un jour, je l'ai fait en pieds nus. Un jour, j'ai mis les baskets. Je me suis pas changé. J'étais en short de sport, en t-shirt coton. Je suis parti faire un truc comme ça. L'an dernier, il y a un jour, qui est une séance mémorable, hein, pendant l'été, où je me suis rendu compte à la fin de la journée que je n'avais pas fait, il manquait 200 ou 300 mètres. Et j'ai dit, je vais faire ça. Et j'ai fait un live sur Instagram. Et au final, j'ai fait 2,5 km au lieu de faire 200 mètres. Mais j'étais parti pieds nus, en sandales, et puis finalement pieds nus, en discutant comme ça sur Instagram, en faisant les lives, etc. Et donc avec ma femme, c'est un peu le truc de dire il y a à ce moment-là, là, j'ai besoin de 10 minutes à 15 minutes hein, pour aller faire ma séance. Je les prends et puis j'essaye de les cumuler avec autre chose. Et surtout ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de partir le plus tôt possible, les samedis matin et dimanche matin quand elle a ses formations, pour qu'elle ait le temps de se préparer, qu'elle ait un moment, que si ma fille se réveille, je sois là pour m'en occuper, sans que elle, ça lui rajoute du stress alors qu'elle doit se préparer pour aller à sa formation, etc. Et donc on a essayé de mixer comme ça l'année. Il y a 90% du temps, ça n'a posé aucun souci. Et elle a vu aussi que j'en ai besoin, que ça me fait du bien, etc. Et voilà. Et donc après, le reste de la famille ne s'est pas trop intéressé à mon histoire. Voilà. Donc il n'y a pas eu de. Enfin, ils sont un peu surpris, etc. Mais on n'en discute pas plus. Et puis c'est comme ça. Même si j'ai droit à quelques remarques il n'y a pas longtemps d'un bout de famille qui a dit oulala, t'as perdu du poids, tu fais trop de sport, tu devrais y arrêter et tout. Ce qui était totalement contraire en fait à ce que je recherche, mais qui eux pour l'extérieur, ils voient que mes joues sont creusées, parce que j'ai vraiment perdu du poids par rapport à il y a un an. Et je le dis, hein, il y a un an, j'ai presque pris 10 kilos avec mon opération, donc je les ai reperdus. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que eux pour eux, finalement, d'être un peu plus avoir un peu les joues creusées, pour eux, ce qui est un signe de mauvaise santé. Et pour moi, plutôt un signe de bonne santé, en disant, d'avoir moins de gras dans mon corps, en restant quand même à 20%, et je suis pas mou ou quoi que ce soit, hein, et tout. Pour moi, c'est quand même un signe de meilleure santé. Alors que pour eux, c'est un signe de mauvaise santé. Donc, c'est la perception extérieure, en fait, qui des fois est un peu perturbante, et qui des fois est un peu source de discussion. Nouvelle section. Et oui, j'ai dit je ferai pas 2 heures, mais je vais finir par faire 2 heures. On va aborder un peu la question du mental, et puis après il y aura la question de l'avenir, de ce qui va se passer ensuite. Sur le mental, mais j'en ai quand même beaucoup parlé, je me rends compte. Objectif Barclay, par exemple, qui me dit qu'elle était la sortie la plus difficile physiquement et mentalement. Je le dis, hein, ça fait partie de ces sorties qui sont un peu tardives, et sur le 496 challenge où je me dis, oh là là, il faut que tu fasses tu dois faire 15 bornes ce soir, etc. Et là, j'ai essayé en fait de vraiment diminuer ça. Et c'est pour ça que j'ai souvent divisé par deux les séances, justement pour qu'elles aient moins d'impact psychologique et moins d'impact physique sur moi. Il y a même des jours, je les ai fait en trois fois à peu près. Il y a un jour vraiment où j'ai dit mais c'est pas possible, tout va s'arrêter. Et c'est il y a pas longtemps en fait. C'est le premier jour avec on était tous les deux avec ma fille. Ma femme avait pris donc quelques jours pour se reposer, etc., pour pouvoir bien préparer ensuite la suite des examens. Et donc peut-être le premier soir où ma fille elle me promet, elle me dit oui, on va aller faire du vélo, on va courir. Et puis au fur et à mesure que la journée est passée, elle commençait à plus vouloir y aller en fait. Et au bout d'un moment, je dis mais Camille, tu m'as fait une promesse. Et puis j'étais en train d'imaginer comment je pourrais faire dans la cour, etc. Et je dis Camille, tu m'as fait une promesse. Et c'est là que je dis bon, écoute, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et elle me dit des frites. Je dis alors déjà tu sais pas quoi, puisque tu veux manger des frites. Je dis écoute, si tu veux qu'on mange des frites, moi je veux bien, mais il faut qu'on les mérite quand même. Et donc on va aller les chercher en marchant courant. Et ce jour-là, franchement, je me suis dit mais ça va jamais passer, c'est pas possible, ça passera jamais. Et finalement, c'est passé. Et je crois que mentalement, les jours les plus difficiles en fait, c'était les jours où potentiellement je me disais en fait je vais pas pouvoir le passer. Parce que ça semble, les choses semblent pas s'aligner. C'est-à-dire que le matin, j'ai prévu d'aller courir, je n'ai pas pu y aller. La journée, j'ai eu des trucs à faire. Et je voyais qu'au fur et à mesure que la journée passe, je vois que les créneaux diminuent. Et puis j'arrive le soir. Et puis à un moment, je regarde 21h30. Et je dis, bon, je vais courir. Ma femme me dit, mais t'es pas encore allé courir? Elle me dit, je croyais que t'avais couru et tout. Je dis, bah non, j'ai fait ça et tout. Et dans ces cas-là, c'est là où mentalement, c'est plus compliqué. Physiquement, je pourrais dire qu'il y a eu quand même quelques séances où j'ai eu des douleurs. Alors les séances au tout début où j'avais des grosses douleurs, où j'étais obligé de m'arrêter. Il y a un jour où j'ai fait 2 km, je me suis arrêté peut-être 5 fois ou 6 fois, tellement j'avais mal au dos, tellement j'étais plié. Mais en fait, c'est là où je me dis que si j'avais pas eu ce type de perception, de me dire je veux vraiment mettre de l'activité pour arranger la situation, pour tester ce que ça fait de bouger, pour améliorer. J'aurais pas recommencé en fait. C'est-à-dire que je me serais arrêté, j'aurais dit bah je me repose et puis quand j'aurai moins mal, j'irai courir. Et en fait, je me rends compte après l'expérience, et puis j'en ai parlé avec ma kiné aussi. Et puis j'en ai parlé aussi quand j'étais avec Thomas Laurent Blanchet et tout. Et j'ai dit moi je vais courir tous les jours, je vais bouger tous les jours. Et un jour, j'avais beaucoup moins mal et j'ai dit à ma kiné, j'ai moins mal au dos quand même. Et alors que elle m'a, s'est dit je comprends pas trop. Et j'ai quand même beaucoup moins mal depuis que je cours et tout. Et je me suis intéressé un peu au fonctionnement des disques et tout, comment ça marche. Et j'ai vu qu'il fallait s'hydrater, que le mouvement les renforçait, qu'il reprenait de l'épaisseur, donc que ça baissait la pression qu'il pouvait y avoir et tout. Elle dit ouais exactement. Elle me dit donc c'est logique en fait qu'en bougeant vous avez moins mal. Et parce que c'est globalement c'est comme ça que fonctionne le corps aussi. Et donc physiquement, là où j'ai le plus de difficultés, c'est vraiment les moments où vraiment j'avais des douleurs, etc. C'était vraiment au tout début. Et puis de temps en temps, mentalement, c'est le jour où je suis un peu énervé, ou émotionnellement, où il y a plein de trucs qui m'ont énervé, etc. Où on peut avoir des soucis, une mauvaise nouvelle, un courrier à la con, des impôts par exemple. Alors des impôts, non, on n'en a pas eu cette année, mais par exemple, je pense que le jour où la facture EDF arrive, je pense que je suis pas de bonne humeur. Et en fait, vous voyez, des fois, il y a un trop plein d'émotions et on dit, je vais courir pour les dégager. Et en fait, c'est les pires. C'est les pires pour moi. C'est-à-dire que j'ai envie de tout dégommer, tout. J'ai tendance à mettre du rock fort dans mes oreilles. Et en fait, je pars n'importe comment, je pars vite, etc. Et là où je pourrais penser que ça va me nettoyer, me lessiver, en fait, je pense que c'est encore pire, en fait. Ça empire les choses chez moi. Donc, c'est pas bon. Bah, voilà. Mentalement, c'est ça le plus compliqué pour moi. Virginie, est-ce que certains matins tu as envie de renoncer, rester tranquillement chez toi? Ben non, en fait, pas le matin. J'ai pas vraiment de jours où je me suis dit je renonce et j'y vais pas. Il y a plutôt eu des jours, quelques jours dans l'année où je me suis dit là aujourd'hui je vois pas comment je le passe. Donc je parle ce jour de juillet. Il y a eu un ou deux jours dans le mois de janvier où je disais où ça passe pas. Puis il y a des jours où je me suis dit mais heureusement que t'as découpé, heureusement que t'as fait 5-6 kilomètres le matin. Heureusement que t'as fait 10 km à midi par exemple quand c'était 486 challenge, parce que le soir, il te reste que quelques kilomètres. Et c'est ce que je faisais en fait sur le mois de janvier. Il y a des matins, je disais bon bah je vais courir pour une heure à peu près, on verra comment ça fait. Puis j'essaie de pousser, je dis bon, aujourd'hui je dois faire 20. Allez, si j'arrive à en faire 12 ou 13 ce matin, cet après-midi j'en ai beaucoup moins à faire. Et en fait, j'ai géré comme ça souvent. J'ai géré, il y a plein de moments en fait, j'ai géré ce truc-là. Et le matin en fait, c'est pas mon problème en fait. Le matin, je peux. Même s'il fait froid, etc., le matin, même s'il pleut, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment pas le problème du matin. Le problème pour moi, c'est plus la journée passe et moins, et plus je vois que je peux pas y aller, et plus ça devient compliqué. Et ça, c'est pour ça que moi, vraiment, c'est le matin. Plus la journée passe, plus il y a des choses qui viennent s'intercaler dedans, et plus finalement, le temps qui est réservé à la course est en train de disparaître et il est pris par d'autres personnes en fait. Et ça, c'est le truc qui m'ennuie en fait. C'est ce qui m'ennuie le plus. Mais par exemple, je prends le jour du le 27 janvier, j'ai fait en trois fois. J'ai fait une fois le matin, une fois midi, une fois le soir. Et j'ai découpé comme ça en trois fois. Et en fait, le soir, j'ai fait lever de soleil, midi, coucher de soleil ce jour-là. Et typiquement, c'est le moyen aussi pour moi d'arriver à dire, c'est comment dire, pour résumer en fait un petit peu la question qui serait de dire que plus le truc qu'on doit faire est énorme, plus il nous fait peur et plus ça a une tendance à nous démotiver. Et donc moi, le fait de l'avoir découpé en petits morceaux, de leur dire bah je dois faire trois quarts dans le matin, une heure le matin, une heure le soir, et puis une heure à midi, puis je ferai le restant. Si j'ai pas le temps, bah, il me restera que 20-25 minutes à faire le soir. Bah, en fait, plutôt que d'avoir des grosses montagnes face à moi, j'ai plutôt des plus petites montagnes. Et donc, au niveau de la motivation, ça évite justement cette perte de motivation. Donc, c'est vraiment intéressant. Et une dernière question sur la partie mentale d'Estelle. Est-ce devenu une habitude sans plaisir ou juste un plaisir? Et bah, écoute, c'est drôle de poser la question comme ça, en fait. C'est-à-dire que on est dans la logique de dire habitude, routine égale absence de plaisir. Et moi, je dirais non, c'est habitude et routine, c'est plutôt une facilitation de la mise en action. Vraiment, je le vois comme ça. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude d'aller courir, tout simplement, faire le premier pas, c'est compliqué. C'est difficile. Mais moi, le premier pas, il est devenu extrêmement facile. Je l'ai dit ce matin, je me lève, je mets un short, je bois un verre d'eau, je mets mon t-shirt, je vais aux toilettes, je mets mes baskets, je pars. Enfin, en 5 minutes, il n'y a aucune friction, aucun truc qui vient gêner ou quoi que ce soit. Et derrière, en fait, cette mise en action rapide me permet d'en profiter. Il y a un autre truc sur l'organisation qui était important pour moi, c'est que je pars toujours de la maison. Je n'ai jamais pris la voiture, ou alors très rarement, sauf pour aller au plan d'eau avec ma fille, où on doit aller un peu plus loin pour qu'elle puisse faire du vélo, de la trottinette, à des endroits qui sont possibles. Mais quand je cours tout seul, je n'ai jamais pris la voiture pour aller courir, pour aller m'entraîner. Je suis toujours parti à proximité de la maison. C'est-à-dire que je pars de la maison, je marche un petit peu, je démarre le chrono, je cours. Et pourquoi? Parce que le simple fait de déjà dire « il faut que je prenne la voiture pour aller à tel endroit, etc. »« Oh, ça me fatigue, il faut prendre la voiture. Est-ce que la voiture est dispo ?» Enfin, tout ça, où est-ce qu'elle est, comment je vais faire pour me garer en rentrant et tout. Tout ça rajoute de la friction. Si je dois faire 10 minutes de bagnole pour courir 10 minutes, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire, l'effort. Alors que là, je me dis, bon, bah, écoute, t'as 10 minutes. 10 minutes, c'est le tour du petit quartier, là, du pâté de maison, etc. Et quand tu reviens, bah, c'est fait. Et t'es tranquille. Et en fait, c'est vraiment là-dedans. Et là-dedans, j'essaye de remplir, de dire, bah, comment je vais me faire plaisir. Des fois, c'est en regardant le soleil. Des fois, c'est en faisant des photos. Des fois, c'est en faisant des accélérations. Des fois, c'est en faisant la course avec des gamins à vélo. Enfin, des fois, c'est en prenant la rue la plus petite possible. J'aimerais bien faire un petit peu de Strava Art, faire des petits dessins sur Strava et tout, des trucs comme ça. Donc je commence à repérer un peu les choses, mais ça va rajouter aussi un petit peu de plaisir, de joie, etc. Mais pour moi, il faut pas confondre en fait cette histoire de habitude égale routine égale quand c'est la routine, on dit que la routine tue l'amour, etc. Mais moi je vois plutôt comme étant en fait quelque chose qui limite le besoin de motivation et qui facilite la mise en action. Voilà, c'est vraiment ça que je vois. Et maintenant, il me reste une dernière série de questions sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce que je vais faire derrière? Alors Xavito qui me dit, tu vas continuer encore longtemps. Je n'ai pas la réponse. J'ai dit l'an dernier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un épisode de podcast en disant, À partir de maintenant, je commence à courir tous les jours pour le reste de ma vie. Et c'est mon idée, elle est là en fait. C'est de dire que je construis un mode de vie où je cours tous les jours. Et j'ai traditionnellement dit, on me dit, tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, en ce moment, je fais du podcast et je cours tous les jours. Et puis, il y a des jours où je fais du podcast sur la course à pied. C'est ce que je fais maintenant. Globalement, c'est un petit peu ça, mon fonctionnement. C'est, je crée du contenu en ligne tous les jours. Je cours tous les jours. Je mange tous les jours. Je dors tous les jours. Je lis tous les jours. J'écris tous les jours. Et je suis vraiment dans cette logique-là. Et en fait, mon équilibre se situe là-dedans. Et je me dis, là, vraiment, c'est comme ça que je le voyais, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, dans ma tête, je pense que je me disais qu'un sportif pro, il faisait que du sport, il faisait rien d'autre que ça. Et ben, je me dis, en fait, je me rends compte que c'est pas le cas. Mais je me dis qu'en fait, la partie de faire du sport un peu tous les jours, de bouger un peu tous les jours, là, je l'ai introduite et j'ai pas l'intention de la supprimer. Donc, ça répond aussi à la question de vas-tu de Maria Laura qui me demande si je vais continuer la course quotidienne. Oui. Voilà. Longtemps, je ne sais pas. Et puis, même, j'avais dit que c'est une question qui m'a été posée au tout début. J'avais mis un joker, en fait, dans ma possibilité. Le joker, c'est quelque chose dont je parle. J'ai fait des séries sur la gestion du temps, surtout sur les habitudes, en disant qu'en fait, on peut avoir un joker. C'est la règle de deux, en fait. C'est-à-dire que si un jour, je veux rater une séance, je m'autorisais un joker qui était une double condition. La première, c'est que la veille, j'ai bien fait ma séance et que le lendemain, je m'engage avec moi-même à faire ma séance. C'est-à-dire que si je loupais une séance, le joker de louper quelque chose, c'était que la condition, c'est que la veille, j'ai bien fait ma séance et que le lendemain, je la fasse. Et en fait, j'ai décidé que ce joker n'existait plus chez moi. Ce qui veut dire que le jour où j'arrête de courir tous les jours, où je loupe une séance, ça redémarre en fait ma série à zéro. Même si on pourrait dire, j'ai couru, imaginons, ça fait au bout de 2 ans, je pourrais dire, j'ai couru 2 ans, il y a 15 jours que j'ai raté. On pourrait dire, ça fait une grande série comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'interrompra pas la série sur le long terme. L'idée, c'est de dire, si je m'arrête 2 jours, ça sera comme ça. Je repartirai avec une autre série comme ça. Et parce que je sais qu'en fait, elle me fait du bien. Ce qui est important, c'est pas la série. Ce qui est important, c'est le résultat du fait de bouger comme ça tous les jours m'apporte du bien, du bonheur, de la santé mentale et physique. Et ça, pour moi, c'est la clé de tout, en fait. Et c'est pour ça que sur mon mode de fonctionnement, ce qui est important, c'est pas se concentrer sur la série, sur les petites croix que je peux faire, c'est se concentrer sur ce que ça m'apporte au global, c'est-à-dire le bien-être et le résultat global. Et donc, est-ce que je vais continuer longtemps, le plus longtemps possible? Est-ce que je vais continuer la course quotidienne? Oui, parce que c'est comme ça que je mesure. Et Monsieur Antoine qui me dit, est-ce que je prévois des jours off et tout, tous les 5-6 jours? Non, parce que finalement, mon jour off est un jour où je vais courir moins vite, moins fort. Et où d'ailleurs, j'ai fait une alternance course-marche. Il y a des jours où je cours pas. Je fais par exemple, je pars 20 minutes, mais où je suis un peu fatigué, je vais faire la montée. Par exemple, plutôt, en mode marche, et puis je vais faire de l'alternance course-marche, etc. Et puis voilà, donc vraiment, je le gère comme ça. Donc c'est pour ça que mon jour off est plutôt un jour où finalement, je vais faire de l'alternance, plus d'alternance, peut-être marcher plus que courir à la limite, et encore que ça arrive très très peu, mais où je vais plutôt baisser un petit peu l'intensité, où le but du jeu, justement, c'est d'avoir une intensité qui soit vraiment très faible. Et sur mon Strava, j'ai des jours d'intensité avec une intensité vraiment, vraiment, vraiment très, très faible, certains jours. Il me reste alors 2 questions. Allez, 3 questions. À quel point tu ne peux plus t'arrêter tellement tu te sens bien? Louloute. Alors, je sais pas trop répondre à cette question, en fait. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas, en fait, de raison d'arrêter. Donc, je n'ai plus envie de... C'est pas que je ne peux plus, c'est que je n'ai pas envie de m'arrêter parce que je ne vois que les bénéfices. Je n'ai pas d'effet négatif de tout ça, quoi. Les gens me disent, oui, mais tu pourrais passer trop de temps, etc. Mais je pense que des gens qui courent que 4 fois par semaine font plus d'activité que moi en courant tous les jours. Parce que moi, je cours pas 4 fois 1 heure tous les jours. Enfin, je cours quand même 40 minutes. Mais des gens qui vont faire 2-3 heures le week-end, plus temps, plus de sorties dans la semaine, plus une sortie club, pourrait faire, et je pense qu'à une époque, en faisant 3 sorties dans ma semaine, je courais plus en volume et en temps passé que ce que je fais maintenant en courant tous les jours. Parce que j'ai décorrélé, déconnecté finalement, le temps et le temps passé, la distance, l'intensité, tout ça j'ai déconnecté en fait. Si je prends je vais repartir en 2020, non, 2020 c'est quand même une année qui est un peu je reprends mes stats. En 2019 par exemple, quand on regarde mes séances, elles sont quand même très espacées. Par exemple sur le mois de mars qui est où je fais 23 heures au mois de mars, je fais 252 km au mois de mars, 23 heures de course en 2019 en courant 4 fois par semaine. Mais dedans, j'étais en préparation mentale, en préparation marathon et c'est pour ça que j'ai pris ce moment-là, 252 km sur le mois en faisant l'endurance mentale le mardi, du club le mercredi avec de la VMA, le vendredi du seuil ou de la côte et le dimanche c'était soit une sortie longue, soit enfin c'était de la sortie longue en fait pour la préparation du marathon de Paris. Et ben si on regarde sur le mois de mars 2019, j'ai plus couru que sur les derniers mois de sur le mois de juin, je pense que j'ai moins couru que en courant tous les jours, j'ai peut-être moins couru en fait. Bah même largement quoi, hein. Franchement quand je regarde un petit peu le volume, courir à 250, j'ai jamais fait un mois à 250. Autre, si on enlève le 486 challenge, j'ai pas fait de mois à 250 ou à plus de 200 km sur les 12 derniers mois. Donc ça veut dire que on peut décorréler en fait, et on peut dire bah c'est pas parce que je cours tous les jours que je cours plus que des gens qui courent 3, 4 ou 5 fois par semaine. C'est ça que je trouve qui est aussi intéressant dans la gestion de l'intensité, de la fatigue, etc. Une autre question qui m'était posée maintenant, et je vais finir là-dessus parce que finalement c'est les deux questions qui sont un petit peu liées entre elles. Est-ce que j'ai une course en objectif? C'est une question de Claire Hélène et Maria Laura qui me demandent est-ce que j'ai des nouveaux objectifs ou des nouveaux changements, etc. Alors, est-ce que j'ai une course en objectif? Ça c'est un petit peu compliqué de répondre. J'aimerais bien vous dire oui, mais pour l'instant je suis pas inscrit, donc pour l'instant je ne sais pas si je pourrais y aller. Mais pour l'instant, j'ai une course qui me fait un peu rêver. Et ceux qui sont sur dans le Hamsters Running Club et sur Patreon le savent. Donc voilà. Donc c'est à peu près... ça serait ma course d'anniversaire, à peu près. Voilà, je voudrais m'offrir un truc pour mon anniversaire. Donc ça, c'est un peu ce que je vise. Et dans l'idée, en fait, ça serait plutôt d'aller sur un 24 heures. De courir un 24 heures. Voilà. Donc je sais pas si je suis en mesure de le faire. Je parle pas physiquement, je parle sur le plan de l'organisation. Mais ça par contre ça serait un peu le défi fil rouge un peu qui pourrait arriver à partir de alors peut-être pas août parce que août il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà enregistrés, mais sur le mois de septembre ça pourrait être un peu le fil rouge du mois de septembre, etc., de montrer un petit peu ça, de montrer où j'en suis un petit peu dans la préparation avec une prépa qui serait plutôt express si ça se passait comme ça, en basant en fait sur le volume global que j'ai sur l'année. Et en disant, bah, à partir de là, je vais rajouter un peu des séances pour monter sur un temps de course un peu différent et faire des séances un petit peu différentes. Sachant que j'ai considéré que le 487 Challenge était la préparation idéale pour faire un 24 heures, mais qu'à l'époque, j'ai pas trouvé de 24 heures à porter, qui était bien calé, etc. Donc, c'était pas non plus le moment idéal pour le faire. Ça, c'est un truc. Et puis, dans ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois de septembre, au 1er septembre, j'ai mon abonnement en salle de sport qui reprend. Et j'ai décidé, en fait, de m'attaquer à mon physique. Mais vraiment de m'attaquer à mon physique. Et pour deux raisons. Le premier critère, c'est esthétique. Donc, je trouve que esthétiquement, je suis pas encore satisfait de mon corps tel qu'il est fait. Et je le dis très clairement. C'est-à-dire que j'aime pas mon ventre et tout, et ça c'est je pense que tous les anciens, tous ceux qui ont perdu beaucoup de poids comme moi, et on a un petit peu ce souci là de se dire comment est-ce qu'on peut redessiner un peu les abdos, un peu musculairement, etc. L'autre jour j'avais une question aussi sur les pectoraux, et ça en fait il y a pas de truc, c'est la musculation. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est que la musculation permet de faire du muscle, et le muscle aide aussi sur le plan de l'équilibre global au niveau de l'alimentation, mais aide aussi sur la tenue du corps physiquement, sur porter des choses, ma fille qui en a besoin, porter des choses lourdes, bien vieillir, on vieillit mieux avec des muscles. Et là je suis dans une période où je je peux encore faire du muscle, en fait. Hein, c'est-à-dire que j'aurai 46 ans dans pas longtemps, et bah je peux encore faire du muscle, construire du muscle, etc. Et que dans l'esprit du vieillard galopant, un vieillard galopant, en fait, le grand enjeu du vieillissement, c'est pas juste de marcher tous les jours, c'est de garder du muscle, en fait. C'est de plutôt partir sur une base de plus forte au niveau des muscles. Et puis la troisième point aussi, c'est que j'ai eu un gros point faible sur mon année et qui découle un peu de mes douleurs que j'avais de, vous voyez, mal de dos, sciatique, etc. Et qui est un peu en fait une boucle qui tourne en elle-même. C'est j'ai mal au dos, donc j'ai du mal à faire des abdos, du renforcement, du gainage parce que ça tire beaucoup. Mais comme je ne fais pas de renforcement et de gainage, eh ben je continue à avoir mal au dos. Et ma vision des choses, en fait, c'est que si j'ai certaines de mes douleurs actuelles dans le dos, dans les lombaires, etc., c'est parce que je n'ai pas des lombaires assez forts. Je n'ai pas une ceinture abdominale assez forte, que je n'ai pas un haut du corps assez fort. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai commencé à ressortir mes élastiques, j'ai ressorti mon kettlebell, j'ai repris mes séances de pompe. Et que, en fait, je me rappelle juste que, à l'époque où j'avais préparé le marathon de Paris, si vous vous rappelez bien, si vous avez écouté tous les épisodes, il faut vous rappeler d'un élément qui était important, c'est qu'à l'époque, je faisais des pompes tous les jours. Je faisais 5, 6, 10 minutes de sport tous les matins. Je faisais des étirements, j'ai fait du yoga tous les matins, etc. Et que tout ça, au moment où j'ai eu mal au genou, déjà, yoga, il y avait plein de trucs qui faisaient mal et je pouvais pas le faire. Et puis ensuite, après, avec l'opération, je pouvais plus faire certains trucs, donc j'ai perdu certaines habitudes. Et puis ensuite, après, comme j'avais commencé à avoir des douleurs dans le dos, et ben les rotations, yoga, je pouvais plus les faire. Il y a certains mouvements que je peux plus faire. Même sur les abdos, il y a des trucs que je peux plus faire très bien, etc. Et en fait, ça ne fait que renforcer la problématique, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en ce moment, vous allez découvrir dans les semaines qui viennent des épisodes avec des experts un petit peu de la foulée, de l'entraînement. Et il y en aura certains. Et où on a beaucoup discuté un petit peu de la tenue du corps, le renforcement, l'importance de faire du gainage, la musculation, et où ça m'a fait ressortir en fait certains outils, certaines choses, et qui vont aller en fait dans un sens qui pour moi c'est de dire il y a une partie transformation physique parce que c'est un peu boucler mon parcours de perte de poids et de transformation parce que quand j'ai commencé à perdre du poids, je m'étais imaginé qu'un jour je reverrais mes abdos. Pour l'instant, je les vois pas. Et ça c'est on peut dire que c'est un peu de l'ego mal placé ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est une réalité et cette réalité-là, j'ai envie de voir si je peux m'y attaquer. J'ai envie d'avoir un haut du corps qui est un peu plus fort aussi, parce que ça m'aidera sur la tenue globale de mon corps. Et j'ai regardé aussi des vidéos, par exemple Major Mouvement qui en parlait il y a pas longtemps, en disant bah si on a mal au dos à la fin d'une journée sur une chaise, c'est mal au lombaire, c'est aussi parce que on n'est pas assez fort des lombaires. Et j'en reviens sur ce que je disais au tout début sur l'histoire des nos ancêtres qui portaient des choses plus lourdes, qui avaient plus d'activité, etc., qui avaient probablement une musculature qui était plus forte parce qu'ils passaient moins de temps sur une chaise, plus de temps debout, plus de temps à porter des choses, etc. Et donc notre corps en fait il y a une verticalité et donc tout ce qui est pas porté par le haut du corps va être porté par le bas du corps, par nos jambes, etc. Et la jonction des lombaires avec les positions assises, etc., fait qu'il y a beaucoup de pression qui se met dessus. Et donc je pense que le meilleur cadeau que je peux me faire maintenant comme nouveaux objectifs, nouveaux futurs changements, etc., c'est d'ajouter en fait du renforcement, mais surtout de la musculation au poids du corps et musculation avec des alors peut-être pas d'haltérophilie, etc., même si je me dis qu'un jour je serais pas contre un peu de crossfit ou quoi que ce soit. Il y a juste un changement que je veux pas faire, c'est juste un truc, c'est que je veux pas je vous l'ai pas dit, mais je n'ai fait aucune séance sur tapis. Eu aucune séance sur tapis, j'ai fait que des séances en extérieur. J'ai toujours couru en extérieur et toujours en short. D'ailleurs, toute l'année, j'ai couru en short, même quand il faisait très froid, j'ai toujours couru en short et toujours en extérieur. Et ça, je vous rappelle ce que j'ai dit au tout début, c'était mon objectif, c'était de prendre le plus le jour, plus la lumière, plus le soleil, etc. Et ça, c'est un truc qui ne va pas changer. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Le mardi, là, j'enregistre le mardi, mais donc demain, quand vous allez écouter cet épisode, si vous l'écoutez, sera dans les premiers jours de la deuxième année, jour 366, 367, etc. Je continue sur le même rythme. 10 minutes par jour, 1 miles par jour, donc 1 km 6. Ça, c'est la série continue ainsi. Toujours en plein air, pas de tapis, mais par contre avec une complément, avec du renforcement musculaire, la musculation, la reprise du yoga, la musculation au poids du corps, la musculation avec certaines des haltères de 5 kg, etc. Et de la proprioception, enfin du travail de renforcement des jambes, etc. Parce que je crois que, même si là je vais faire des radios pour vérifier rachis lombaires, squelette, longueur de jambes, etc., ce que je vous disais sur le médecin, on va vérifier quand même que là-dessus, sur la partie mécanique, que dans le fonctionnement mécanique, il n'y a pas un truc qui cloche. Mais je crois que vraiment, je me rends compte que c'est un problème de, globalement, en fait, de musculature du haut du corps, qui, en tout cas, en améliorant ma musculature du haut du corps, je vais améliorer beaucoup ma tenue globale, je vais améliorer ma confiance en moi encore, je vais améliorer ma capacité à mieux vieillir, je vais améliorer ma prestance, je vais améliorer le fait de me tenir plus droit, ça va améliorer ma respiration, puisque si on tient plus droit, on ouvre plus la cage thoracique, le diaphragme et tout, la respiration. Je vais améliorer aussi ma tolérance à ma gourmandise, puisqu'il y a plus de muscles, il y a un métabolisme qui dépense plus de calories. Et je vais améliorer ma capacité à jouer à ma fille, à la porter dans toutes les conditions. Si on va à un concert, à pouvoir la porter sur mes épaules plus que quelques secondes et être me sentir mieux. Pouvoir jouer avec elle, courir avec elle quand elle est en vélo plus facilement. Je vais aussi améliorer avec de la mobilité. Et là, vous allez voir, on en parle dans un épisode qui va arriver. Avec plus de mobilité, un peu plus de souplesse, mais surtout plus de mobilité, je vais aussi améliorer ma capacité à courir, à lever les jambes un peu différemment, à avoir un parcours de jambes plus facile. Et donc, ça va améliorer ma capacité à monter plus facilement, à accélérer, à courir plus vite. Et donc, c'est ça, en fait, la partie 2, en fait, j'ai envie de dire, l'étape 2 de ce défi, qui n'est pas un défi, en fait. C'est-à-dire que beaucoup l'ont pris pour un défi, se demander si, en disant, bah, maintenant que tu as fait l'année... Et j'ai pas fait de décompte, en fait. J'ai fait un demi-décompte en disant, ouais, je suis à 363, 364, 300, hop, j'arrive au bout. Mais j'ai pas dit, ça fait J-3, J-2, J-1, etc. Parce que c'est un peu la question qui était posée sur l'objectif, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Mais en fait, l'objectif en lui-même, c'était pas de courir un an. Je rappelle que l'objectif, c'est de courir tous les jours pour le reste de ma vie. Et l'objectif suprême, c'est d'être un vieillard galopant en bonne santé le plus longtemps possible. Et celui-là, il est fait, en fait, c'est mon étoile polaire, j'ai envie de dire, que je suis. Et derrière, ensuite, il y a plein d'objectifs qui vont venir se greffer, comme un jour, c'est pour être participer à une course, l'an prochain, le fameux Gravelman que j'aimerais bien faire, l'Ironman, pour l'instant, me botte moins, mais si l'an prochain, je peux faire le Gravelman, et puis ensuite, j'espère avoir mon marathon, mon dossard pour le marathon de Paris olympique, enfin, vous savez, le marathon pour tous, 2024, 2023, Gravelman, 2022, bah, peut-être une ou deux courses de fin d'année, peut-être reprendre un petit peu ça, donc peut-être à 24 heures, peut-être des courses caritatives au mois de novembre, vous voyez, pour le Movember, des petits trucs comme ça, sur lequel après, je pourrais travailler un peu à nouveau la vitesse et autres, et puis physiquement, ouais, cette poursuivre l'évolution. Et ce qui est sûr, c'est que je vais vous la raconter, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer en vidéo sur YouTube, je vais montrer en vidéo sur Instagram, faire des posts Instagram, et puis bien sûr, je vais vous la raconter dans le podcast. Et on va continuer comme ça dans le podcast. Et puis bien entendu, je vais le raconter aussi beaucoup dans le Hamsters Running Club, avec je vais continuer à faire, il y aura toujours des vidéos toutes les semaines où je réponds aux questions, toutes les semaines, où je fais une sorte de coaching collectif, en fait, dedans, où je fais des petits programmes, des petites formations, je fais de l'accompagnement aussi dans l'intérieur du Hamsters Running Club, et où, pour moi, en fait, c'est un athlète, en fait, on se rend pas compte, mais ça me fait penser à Hermano, qui avait à une époque créé un podcast sur comment les athlètes finançaient leur carrière, et la question de comment je finance ma carrière d'athlète, elle est au centre, en fait, de mes difficultés que j'ai eues ces derniers temps. Et ça explique aussi pourquoi il y a de la pub sur le podcast. Ça explique aussi pourquoi j'ai besoin de partenaires. Ça explique aussi pourquoi, dans le Hamsters Running Club, il y a une partie gratuite et une partie payante. Hein, parce que le simple fait d'avoir mis le Hamsters Running Club en place me coûte, moi, de l'argent. Et donc, j'ai aussi besoin, à un moment donné, de rentabiliser, non pas le temps que je partage et que ce soit, mais de dire que, finalement, je peux vivre de ça, en fait. Et c'est en vous aidant, vous. Alors certains, vous avez besoin des contenus gratuits. Certains, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'accompagnement. Et l'idée, en fait, c'est de pas restreindre sur les contenus. Vous voyez, je vous ai donné pratiquement tous les éléments. Quasiment tous les éléments, vous les avez tous. Mais par contre, c'est vous aider, si vous avez besoin de méthodes, d'accompagnement, d'un coup de pied au cul. Ça peut arriver. De quelqu'un qui vous dise où t'en es, qui pose des questions, qui vous encourage, qui vous envoie un petit message de temps en temps, etc. Quelqu'un qui pose des questions, avec qui discuter pour les stratégies, quel plan d'entraînement choisir, comment s'organiser, vous voyez, toutes les questions qu'on a abordées un petit peu. Moi, je vous livre ça, beaucoup de choses, au maximum de ce que je vais vous livrer. Mais si vous avez besoin d'avoir des accompagnements, si vous avez des programmes, si vous avez quelque chose qui est plus structuré, eh ben, j'ai ça aussi à vous proposer. Et que ça soit par le biais de petites formations qui sont sur mon site et qui est dans le Mastermind Club, ça peut être par le biais d'accompagnement personnalisé ou de groupe, parce que je voudrais montrer préparer des trucs de groupe aussi. Ça sera aussi ça la suite en fait. Et voilà. Donc vous avez exactement la continuité pour répondre Maria Laura, pour répondre Claire Hélène et à tous ceux qui m'ont posé la question. Finalement, la continuité de ça, en fait, c'est continuer, vraiment continuer, et c'est de faire évoluer petit à petit, de continuer à progresser et de trouver de la progression dans cette pratique quotidienne. Et cette progression ne passera pas forcément par plus de kilomètres, plus de temps passé, plus de courses. C'est pas une course en avant, en fait. C'est pas de dire cette année, faut que je prépare deux ultras, faut que je fasse ça, ça et ça. C'est pas d'augmenter le kilométrage systématiquement. C'est d'aller, en fait, dans une qualité d'entraînement, une qualité de vie et un alignement avec mon idéal de vie et vous aider vous qui soit encore plus aligné. Et c'est vous comprenez pourquoi je vous ai parlé d'ikigai il y a deux semaines en fait. C'est ça mon ikigai en fait de coureur. Et voilà. Donc je vous remercie encore tous pour votre écoute. Je vous ai dit je ferai pas 2 heures puis finalement ça fait 2h09. Mais écoutez ça me fait tellement plaisir de vous partager tout ça avec vous que c'était pour moi un moment que j'ai pas vu passer le temps. Voilà, comme on dit, je suis beaucoup à la recherche du flow. Et un jour, je ferai un truc sur le flow. J'ai des livres sur le sujet, etc. Mais c'est une fois qu'on est dedans, qu'on est parti, qu'on partage avec la passion, etc. Moi, pour moi, c'est les plus beaux moments qu'on passe. Et donc, j'ai envie de les passer avec vous. Et je vous remercie tous pour votre écoute, pour votre soutien, pour ceux qui me feront confiance dans la suite de l'accompagnement. Parce que c'est aussi pour ça que je fais de la préparation mentale. En ce moment, je m'intéresse à de nouveaux sujets. J'ai acheté des livres sur l'hypnose, etc. Et on va faire des épisodes sur l'hypnose aussi, l'auto-hypnose pour le sportif, etc. Parce qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants. Et en fait, la pratique sportive se rapproche beaucoup de l'hypnose. Et sur certains aspects. Et c'est ensemble, comme ça, qu'on va construire petit à petit. Et que j'espère vous accompagner le plus longtemps possible dans vos objectifs. Et que vous deveniez champion du monde de votre monde, et que moi aussi je le devienne en vous aidant à vous le devenir. Et c'est pour ça que je vous en parle dans chaque épisode, que c'est la petite intro que je vous fais, parce que c'est pour moi l'idée importante. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve le samedi pour l'épisode Le Conseil, et puis on se retrouve aussi bien sûr dans le Hamster Zoning Club, qui est vraiment l'espace à l'abri des critiques, à l'abri des gens un peu emmerdants qu'on peut trouver des fois sur les réseaux sociaux, et vraiment dans un accueil bienveillant. Ce que je dis, c'est que imaginez un petit feu dans lequel on se retrouve tous à discuter, à s'entraider, à partager, à dire oh, tiens, comment t'as fait ça, à s'encourager les uns les autres. C'est vraiment l'esprit que je veux retrouver, et c'est vraiment l'esprit club. C'est pas fan club, c'est un club de des gens qui ont envie de bouger et qui ont envie de vraiment de faire des choses avec autour du sport, autour de même d'autres choses, d'autres projets autour qui pourront se greffer petit à petit. Et donc n'hésitez pas, il y a un lien dans les notes de l'épisode, il y a la partie gratuite, la partie payante. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai besoin des deux parties et pourquoi vous avez aussi de la pub, pourquoi ceux qui payent n'ont plus la pub d'ailleurs au passage, et parce que c'est aussi comme ça que les athlètes, quand vous les voyez à la télé, il faut qu'ils financent leur carrière, qu'ils financent leur matériel, etc. Et nous aussi, les uns les autres. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous montre, comment je le fais. Et puis si certains d'entre vous ont envie aussi de le faire comme moi je le fais, on peut aussi en discuter pour que je vous aide aussi à faire ça, et pour que finalement on devienne un petit peu tous ce que j'appelle des athlètes semi-pro à notre manière. Et c'est aussi ça, être champion du monde de notre monde. Voilà, belle journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao les sportifs. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.